Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés avec nous aujourd'hui. Maxence, un petit retour. Comment ça va, Maxence?
Ça va très bien et toi, Eladj?
Ça va super, bonne année.
Toi aussi, bonne année.
Meilleurs vœux pour cette année.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Un petit titre de l'OM?
Exactement, quel qu'il soit.
Pourquoi pas, on espère pour toi en tout cas. Cheikh Kenza, bonne année.
Bonne année, Eladj.
On a que des retours autour de la table hein, et aussi un nouveau qu'on va prendre le temps de présenter. Comment ça va, Cheikh Kenza?
Bien, bien.
Pour cette nouvelle année, tu la sens bien?
Oui, ça va, ça va.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Que du bonheur.
Que du bonheur et la santé. Ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Amadou, comment ça va?
Ouais, ça va, tout doux. Hein.
Bonne année aussi.
Bonne année, pareil, la santé, voilà. Bon, mais par contre, un titre de l'OM, ça serait pas une bonne année pour moi.
Ah ouais. Mais... le bonheur de certains ne peut pas faire le bonheur d'autres.
Comme on dit.
Voilà. Mais on espère en tout cas, on verra bien, on espère pour tout le monde. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment le bien pour tous les clubs et tous les supporters de chacun, même si on sait que tout le monde ne peut pas gagner.
Voilà.
Voilà. Et bien évidemment, ça fera pas plaisir aussi à notre cher ami nouveau invité, Modibo. Comment ça va, Modibo?
Ça va et toi, Eladj?
Ça va super. Modibo, toi, je suppose, ça sera pas une bonne chose pour toi,
non,
un titre
tout,
de l'OM.
Pas du tout,
attention, Maxence, là, t'es en duel avec
en tant que Parisien.
C'est un super sub Parisien. Ouais. C'est plus qu'un Parisien. C'est un.
Plus qu'un supporter.
Voilà. C'est plus qu'un supporter. Il est dans le COP. C'est lui, Dia, Lego.
Attention. C'est le capot du.
Ah ouais, c'est le capot du. Hein. du capi, on va dire. Comment ça va, MDB?
Ça va et toi, Eladj?
Ça va, super. On te souhaite une bonne année.
Ouais, bonne année, hein, franchement, à toi aussi.
Et bienvenue aussi.
Ouais, c'est une première fois, on va voir. On va essayer de débattre.
D'être partial aussi.
Ouais.
Il faut, c'est important.
Toujours. Et okay. Voilà.
On va commencer avec, bien évidemment, la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui s'impose grâce à un doublé de Ousmane Dembélé face à l'AS Saint-Etienne. Un Marseille renversant qui gagne face à Rennes. Monaco qui arrache le nul sur la pelouse des Nantais. Lyon qui s'incline à Brest 2-1. Lille tenue en échec malgré le carton rouge des Auxerrois et avec un manque de réalisme énorme des Lillois. Et aussi un pénalty loupé de Jonathan David, qui est en disette depuis un petit moment. Ça ne va plus trop. On va revenir chez Kenza. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance du Paris Saint-Germain, ainsi que ce que tu as vu en Ligue 1, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, etc.
Ouais, vraiment, en tant que Parisien et tout ça, bon, Lucien Riquet, ça va. C'est des moments mitigés, il y a des matchs qui sont aboutis, d'autres non. Ben, Dembélé vraiment, voilà, qui petit à petit, qui se remet un peu dans le bain, petit à petit, voilà, qui commence à prendre un peu en fait, la place vraiment des leaders, comme on l'attendait après le départ de Kylian, qui enfile des buts, voilà, mais qui a des prestations un peu en dessous, selon moi. Je voyais plus adosser un peu ce costume de responsable et tout ça, de faire plus de grandes choses, tout ça, mais... Concrètement, moi, je ne suis pas convaincu de ce PSG pour la suite de la saison. Parce que je me dis, en Ligue 1, ça peut se faire, mais en Ligue des Champions, on attend vraiment qu'ils franchissent le palier, en fait. On attend au minimum, cette année au minimum, au moins une finale. Parce qu'avec...
Une finale, tes objectifs sont grands. Hein, surtout qu'avec un joueur comme Kylian Mbappé qui est parti l'année dernière, qui n'a pas été remplacé aussi, notamment.
Oui,
parce
vraiment,
que,
oui, voilà. Mais par moment, ça peut être ça. Il y a des équipes qui sont allées en finale par le passé, qui n'avaient pas de très grands joueurs, comme Monaco en 2004, qui nous soit une saison vraiment avec un état d'esprit fort. Il faut le collectif, en fait. Au football, il n'y a pas que les individualités. S'il y a un bon collectif, et puis il suffit de remettre les joueurs en confiance. Mais tout est possible.
C'est
pas parce qu'on a fait une mauvaise première partie de saison en Ligue des Champions qu'on s'est dit que les carottes sont cuites.
Faudrait se qualifier déjà pour la phase finale.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on n'y est pas encore.
Oui, et ça, d'un temps, ça va commencer par quoi? Pas déjà remonter le moral de cette troupe. Il a dit que tout est possible. Voilà, que donc que c'est pas une fatalité déjà d'avoir fait une mauvaise première partie de saison. Il travaille là-dessus et je me dis que ce groupe a le potentiel.
Merci, Cheikh Kenza. Bon, toi, t'as plus parlé de la Ligue des Champions que de la Ligue 1. Amadou, tu peux revenir un peu, toi, sur ce que t'as vu en Ligue 1 et ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, les performances qui t'ont marqué.
Après le match, le PSG, ils ont fait ce qu'ils font, on va dire, ils ont pris les 3 points, devant les buts, là, c'est chaud, quoi, parce que bon, là, c'est contre Saint-Etienne, équipes, là, c'était limité quand même, beaucoup d'occasions manquées. Il manque toujours ce tueur. Hein. On dit qu'il y a Ramos.
Ramos qui joue pas vraiment.
Ouais, qui joue pas.
Bah, ça... c'est peut-être un problème. Ouais, Ramos qui joue pas vraiment. Qui joue. Bah, hier, il a été titulaire. Au bout de la 60e minute, il sort. Mmh. On comprend pas trop pourquoi. Alors qu'il y a que 2-0. Et il n'a pas marqué surtout. Des choix un peu.
Enrique, il est anti numéro 9. Quoi. Il va pas jouer avec des numéros 9, je sais pas. Ils sont en mode Barcelone, quoi. On veut pas de numéro 9. Bah, sinon, Paris, après, le plus important, comme on dit, c'est les 3 points. Hein. Ils ont toujours leur avance sur la deuxième place. Marseille, qui est toujours solide, qui est revenu de l'enfer à Rennes. Bon, c'est pas si facile que ça de gagner à Rennes.
Avec une équipe de Rennes, bien évidemment, qui commence à retrouver des couleurs, si on peut dire, parce que c'est pas non plus fantastique du côté des Rennais hein, depuis un certain temps. Et même là, avec l'avenue de Sampaoli, c'est pas forcément. Il y a du mieux, mais c'est pas. Voilà, on n'a pas retrouvé le Rennes des tops. On pense notamment aussi à Kalimundo, ancien parisien, qui a loupé son penalty un premier temps.
Ouais.
Il marque juste après, il se rattrape, mais s'il met le but et il met le pénalty juste avant, ça change peut-être le match.
Ouais, ça change la donne. Après, je pense que comme Marseille, c'est une équipe qui a du caractère cette année-là. Ils lâchent rien. Bon, ils ont déjà perdu des points bêtes. Hein, on se rappelle contre Strasbourg, tout ça, mais après, ils sont pas à point l'agir. Après, bon, de là, c'est sûr, pour le titre, quoi, je pense quand même que ça sera compliqué pour eux. Mais ils restent solides, quoi. Ils restent solides deuxième place. Je pense qu'ils finiront à la deuxième ou à la troisième place à la fin.
Ils ont pris 6 points d'avance sur Monaco, si je ne me trompe pas. Maxence, qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? Je suppose que tu es content, surtout la semaine dernière avec le spectacle qu'ils nous ont accordé face au Havre. Et là, juste après, ils assurent les 3 points avec une belle victoire quand même face au Rennais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
Ouais, sur l'OM,
ça commence à se mettre en place.
Au-delà du classement et des bons signaux qui sont envoyés par ces points d'avance sur Monaco, Lyon, Lille, qui ont tous perdu des points ce week-end, c'est surtout la manière qui a changé justement par rapport au début de saison. C'est le match à Auxerre, le tournant, le match contre Auxerre au Vélodrome. Il y a une défaite 3-1 et puis surtout c'est une leçon. Et derrière, il y a eu victoire contre Monaco, victoire contre Lens. Il y a eu un enchaînement de très bons résultats, mais surtout la manière. Là, on voit l'équipe est menée 1-0 à l'extérieur, donc pas facile. Et la manière de s'en sortir par le jeu, qui est très très forte. Le premier but d'ailleurs de Greenwood, il est amené par un mouvement collectif qui est incroyable. Højbjerg, Murillo, Greenwood, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un football comme ça à l'OM. Et sinon, je demande à voir. Et surtout, pour moi, un des gros objectifs de la saison, ça doit être la Coupe de France avec le match contre Lille demain. Et pour moi, ça doit être, parce que le titre, ça va être très très compliqué en Ligue 1. Je pense que si on sécurise une place sur le podium et à côté un beau parcours, voire une victoire finale en Coupe de France, ça serait une très très belle saison pour l'OM. Et sinon, plus loin, j'ai envie d'appuyer sur Lyon, qui fait un mauvais début de 2025. Déjà, ils avaient gagné face à Montpellier la semaine dernière, mais
contre
très, très difficilement, contre le cours du jeu. Ils avaient eu du mal en Coupe de France contre Feigny, Aulnois, une R1, en s'en sortant 2-1 aussi, mais à l'arrache. Et là, ça n'a pas pardonné contre Brest qui les a dominés. Et je veux aussi mettre une mention à Saint-Etienne, pas forcément sur leur match d'hier, même si ils n'ont pas été ridicules, mais sur l'ensemble, depuis l'avenue d'Orneland, ils ont battu la semaine dernière 3-1 Brest, je crois. Excuse-moi. Ils ont battu Reims 3-1 dans le chaudron. Et là, hier, ils étaient attendus au parc et ils n'ont pas été ridicules. Ça essaye de presser, ça essaye de jouer. Et pour moi, ils n'ont pas un visage de relégable. Je pense qu'en continuant comme ça, malgré le fait que l'effectif soit pas dingue, ils réussiront à s'en sortir.
Ils avaient aussi des absents. C'est ce qui a. C'est ce que, bon, en tout cas, ça, c'est sûr que ça aide pas plus que ça l'équipe. Mais oui, Saint-Etienne qui sont 16e hein, à égalité de points avec le FC Nantes en différence de but. Ils ont une moins bonne différence de but. C'est ce qui fait qu'ils sont derrière les Nantais. Mais oui, les carottes ne sont pas cuites. Et là même, ouais, ils sont pour les. C'est sûr, ils sont encore au barrage, quoi.
Voilà. Mais pour moi, c'est meilleur que Montpellier, c'est meilleur que Nantes, c'est meilleur que ces équipes-là. Donc. Je pense qu'en plus, avec l'appui du public à domicile, ils vont s'en sortir.
Notamment avec un joli but de... comment il s'appelle ?
David Tajvili.
Oui, David Tajvili qui a mis un joli but, un joli coup franc, où Donnarumma a sa part de responsabilité aussi.
Il n'est pas concentré.
Qu'est-ce que t'en penses, Modibo ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la performance du Paris Saint-Germain et de Donnarumma un peu autour de tout ça et ce qui s'est passé en Ligue 1 ?
Bah, la performance du Paris Saint-Germain, c'est comme d'habitude. Beaucoup de domination, beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions. Et au final, ça finit que 2-1. On allait se faire rattraper à la fin. Mais bon, je suis un peu mitigé en fait. Je suis un peu mitigé parce que je vois du jeu, mais je vois pas de but. Du coup, ouais, c'est ça, j'ai le cul entre deux chaises.
Et Donnarumma, qu'est-ce que t'en penses par exemple de sa performance hier ? Parce qu'on entend dans les petits papiers quelques rumeurs, Lucas Chevalier pour l'été prochain, et que bah, logiquement si tu fais venir Lucas Chevalier, tu devras te débarrasser de Donnarumma. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça ?
Bah, Donnarumma déjà hier, je trouve qu'il est fautif quand même sur le but, parce que la balle elle est pas vraiment sur le côté. Elle était à sa
portée. Le mur aussi, qui n'est pas très très bien placé.
Le mur aussi. Mais du coup, comme le mur il était mal placé, il avait le temps de voir le ballon arriver, tu vois. Et je ne comprends pas. Franchement, je n'ai pas compris ce qui lui est passé par la tête. Après, pour parler de Chevalier, ça serait peut-être un bon coup. Après, de là à jeter Donnarumma, je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr.
Donc pour toi, Donnarumma, Chevalier ne vaut pas Donnarumma.
Enfin, si, mais pas. Après, tu jettes
tu
pas Donnarumma, pas quoi, tu vois.
Tu peux pas les asseoir à côté. Ah, c'est ton avis, hein. Moi, tu me dis, moi, c'est ton avis. Hein. Ne me pose pas la question, sinon je te dirais, non, bien sûr, ouais, que tu jettes Donnarumma. Non, mais ça
moi, reste. Donnarumma, je le garde, tu vois. Il faut le garder quand même. Tu le mets en numéro 2, ouais.
Tu crois qu'il acceptera d'être numéro 2?
Ouais, c'est ça aussi. Je pense pas. Avec le statut avec lequel il est arrivé au Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'il voudrait accepter.
Toi, Donnarumma, il te convainc dans les gros matchs. Quand tu le vois en Ligue des Champions, toutes les boulettes qu'il fait, et truc, pour toi, il te convainc. Donnarumma, non, pour moi, en tout cas, j'attends toujours la masterclass de Donnarumma en Ligue des Champions, ouais, face à un gros qui nous sauve la mise.
C'est vrai. C'est
moi,
vrai.
C'est ce que j'attends. De la même chose de Thibaut Courtois qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid.
C'est
voilà. Vrai.
Franchement, je suis d'accord avec toi.
C'est ce que j'attends d'un gardien de cette trempe. Ouais, à partir du moment où on se dit champion d'Europe, il arrive avec un statut, il doit le faire respecter. À aucun moment, j'ai vu encore ce statut-là être respecté réellement au Paris Saint-Germain, et ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il est là.
Ouais, c'est vrai. Mmh. Ça fait 2 ou 3 ans que ses performances sont mitigées en Ligue des Champions. Après, voilà, comme tu as dit, on a droit de le remettre en question. Et ouais, c'est ça. Hein. Franchement, il n'est pas convaincant. Il n'est pas convaincant. On attend des meilleures prestations de sa part.
Okay. Merci, Modibo. On va revenir aussi sur John Textor qui s'exprime sur ses relations avec le président Nasser Al-Khelaifi. Je cite hein, « Aujourd'hui, je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité en parlant de Cherki et Fofana tant qu'on ne saura pas serrer la main, partager une bière et qu'on n'aura pas décidé ensemble d'aider le championnat de France ». Voilà, les propos tenus par John Textor à propos de Nasser Al-Khelaifi. C'est clairement, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Maxence ?
Bah déjà, il a dit ça, mais il a dit aussi autre chose cet après-midi, là, à 18h,
oui,
chez Rotten.
Il a rajouté pas mal d'autres choses. Ouais.
Il a parlé notamment des relations entre Labrune, Nasser, etc. Oui. Et lui, il s'élève un peu contre ça. Après, je pense que c'est pas le seul à le penser que bah, Nasser, aujourd'hui, il contrôle le football français. Et puis, Labrune est un employé de Nasser. Et c'est comme ça, le trophée des champions, il a lieu au Qatar, c'est Nasser qui organise tout, c'est lui qui a les clés et qui tient le truc, et ça lui déplaît à Textor, donc je peux comprendre. Mais après, tant que Labrune sera réélu et que les présidents de club on va dire, accepteront cette domination de Nasser dans les instances. Ça se passera comme ça, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne chose pour le football français, qui pour moi, en 10-12 ans, a régressé. Quand on voit le paysage du football français au global, au moment de l'arrivée des Qataris au PSG, on avait notamment à cette époque-là un quart de finale avec des champions franco-français entre Bordeaux et Lyon. On avait 5 champions en 5 ans, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Monaco. Il me semble, j'ai un doute pour Monaco, mais bref, 5 champions différents en 5 ans. Non, c'était Bordeaux, pas Monaco, pardon. Mais 5 champions différents en 5 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'on est dans une Ligue 1 à deux vitesses, avec des performances en Coupe d'Europe depuis 10 ans qui ne valident pas cette politique-là.
Donc toi, t'es pas pour spécialement la domination un peu du Paris Saint-Germain, enfin de Nasser Al-Khelaïfi plutôt.
Dans les instances.
Il l'a qualifié un peu comme le petit toutou de Nasser Al-Khelaïfi.
Exactement. C'est pas normal. Pour moi, il doit avoir une autorité supérieure qui est au-dessus de tous les présidents et qui dicte la marche à suivre. C'est pas un club aussi puissant soit-il de faire sa loi dans le championnat.
Bien évidemment, mais quand les autres clubs sont aussi faibles, entre guillemets, et que, l'apport est aussi faible, et tu sais qu'aujourd'hui, même si les droits TV sont vendus à peu près à 400-500 millions...
Mais qui les a rendus faibles ?
C'est
grâce... Les autres clubs, qui les a rendus faibles ? C'est aussi la surdomination du PSG. Et le pourquoi personne ne se positionne sur les droits TV, c'est aussi parce que le PSG sera champion tous les ans et que ça n'intéresse personne de voir Paris-Lorient 5-0. Et ça n'intéresse personne. Ce qu'ils veulent voir, c'est de la compétitivité, c'est de la bagarre. C'est le championnat se portait mieux il y a 10 ans.
Est-ce que ce n'est pas aux autres clubs de se mettre à niveau ?
C'est impossible.
Mais tu penses ?
Bah, là, si de la même façon, si tu conduis une Clio, tu pourras pas te mettre au niveau de la Porsche qui est à côté de toi.
Oui, non, mais
compliqué.
Oui, mais de la même façon où là, par exemple, pour moi, l'OM, là, ils sont en train de faire un effectif pour concurrencer le Paris Saint-Germain.
Oui, mais l'OM, c'est le deuxième plus gros budget de France, donc c'est plus de 250 millions. C'est pas ce qu'on peut demander à quand tu sors de Marseille et Monaco, qui certes peuvent challenger, pourquoi pas, sur une année avec une bonne politique sportive. Les équipes en dessous, comme Lens, comme Lille, c'est 10 fois moins de budget que le PSG. Le PSG peut se permettre des erreurs monumentales. Gonçalo Ramos, 80 millions, Colomoni 80 millions, des mecs qui jouent à peine, pas trop. Un autre club qui va mettre 10 ou 15 millions, si c'est un échec, il va s'en souvenir pendant 10 ans derrière et ils vont le payer pendant très longtemps. Comme on voit avec Lens, qui a mis cher sur Eli Wahi, ça n'a pas trop marché. Aujourd'hui, ils sont obligés de vendre tout le monde parce qu'ils sont au bout de leurs possibilités. Et donc, à mon avis, en fonctionnant de manière aussi déséquilibrée, ça pose problème. C'est ce qui a d'ailleurs porté préjudice à la Bundesliga pendant des années, quand on savait que le Bayern gagnait tout. Et ça a redonné un petit peu de coup de boost, le fait que les Leverkusen arrivent et arrivent à les détrôner. Tant qu'on n'aura pas ça sur la durée, avec un candidat crédible qui se mettra en face du PSG, et ça, les finances rentrent en jeu à un moment ou un autre. Hein. Et à mon avis, on n'y arrivera pas.
Amadou, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Enfin, bon, déjà, pour la pique de Textor sur El Khelaïfi, enfin, là, c'est complètement une pique de dire à M. El Khelaïfi de prendre une bière avec lui. Bon, déjà, ça, c'est une pique parce que on sait que c'est impossible. Je pense pas avoir en conviction. Mais moi, je trouve que c'est dommage de ne pas vouloir... en fait, s'ils vendent le joueur, il va préférer le vendre ailleurs. Peut-être à des gens où le joueur va vouloir partir à quelque part aussi, on lui donne beaucoup, beaucoup d'argent. Mais en même temps, en approvisionnant, même s'il approvisionne un concurrent, en même temps, il prend de l'argent aussi. Donc il prend de l'argent pour aussi potentiellement acheter d'autres joueurs ou faire monter des joueurs dans le très bon centre de formation de Lyon. Bon, c'est un peu dommage qu'il y ait cette guerre de riches, comme on dit. Après, bon, Textor, il veut faire celui qui connaît aussi le football. Je dirais plus qu'il connaît le business. Après, c'est sûr que, comme on dit, entre guillemets, il y a toujours des choses derrière qu'on ne voit pas, qui se passe dans les instances, tout ça. C'est sûr que... Mais il y aura toujours une équipe. Il y aura toujours une équipe soit qui serait plus avantagée ou comme il y a toujours... Enfin, je sais pas, quand on dit les années de Lyon... Quand Lyon, ils étaient au-dessus, c'était pareil. Ça dépend de l'équipe du moment. L'équipe du moment sera toujours peut-être plus avantagée par les instances. Bon, mais je pense que c'est dommage de pas vouloir vendre des joueurs, même si c'est un concurrent.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations
Je pense que c'est des déclarations un peu au rabais. Parce que là, tout à l'heure, il a parlé de Lyon. Pendant l'hégémonie de Lyon, les cartes étaient un peu redistribuées, en fait. C'est-à-dire qu'on avait des équipes un peu qui les titillaient, c'est-à-dire les championnats. On a eu des saisons où ça s'est décidé à la fin ou à deux journées de la fin. Mais depuis l'arrivée du PSG, en fait, on sent que le PSG a une mainmise sur la chose qui est le championnat français. C'est ce qui un peu défavorise un peu les autres équipes parce qu'en fait, il n'y a pas les moyens, mais il y a la qualité, en fait. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie, qu'on le veuille ou pas. On est l'un des viviers en termes de talent et tout ça. Mais pourquoi les jeunes aujourd'hui veulent partir? Parce qu'il n'y a pas de projet, en fait. Il n'y a pas de projet fédérateur. Il n'y a pas des choses qui sont innovantes. Il n'y a pas des choses qui peuvent dire que oui, ben, écoute, si je passe deux saisons dans mon championnat, j'aurai peut-être une visibilité. Je pourrais peut-être gratter des places en équipe de France et tout ça. C'est ce qui un peu fait qu'on perd le joueur un peu à la vatasseur, tu vois. Un joueur, par exemple, comme Luc Cabio, un jeune qui sort, par exemple, un Titi parisien, aimerait aller jouer soit dans un club de seconde zone en Angleterre ou en Espagne, que de jouer dans un club de seconde zone en France. Parce qu'il s'est dit qu'en France, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. Parce que là, il ne pourra pas peut-être jouer les premiers rôles, il ne pourra pas peut-être avoir une place en équipe de France. Il y a tout ça aussi qui rend les choses un peu difficiles. Mais déjà, pour que le championnat de France redonne un peu son blason, c'est une politique à mettre en place. Il faudrait aussi qu'à propos des droits télé, comme il a dit tout à l'heure, oui, il a entièrement raison. Parce que oui, on n'aimerait pas tous voir un PSG qui domine le championnat depuis belle lurette. Il faudrait que ça change. Il faudrait qu'il y ait aussi des champions. Il faudrait qu'il y ait d'autres équipes aussi qui arrivent à titiller aussi Paris.
Ça arrivait par moment un peu.
Oui,
pour ça fait 4 ans. Il y a eu Lille, il y a eu Monaco.
Oui,
mais c'est épiphénomène. On voit que ça s'écroule. Oui. Monaco gagne le titre. Ils sont obligés de vendre leurs meilleurs joueurs au PSG l'année d'après. C'est fini. C'est terminé.
Ça montre que voilà, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire quoi? Parce que quand le vélo pas, en fait, on l'avait déjà dit, il y a la formation, mais il faut du suivi. C'est-à-dire qu'un club, déjà, pour être organisé, il faut du travail à faire. Un club minimum 3 ans pour préparer une bonne équipe pour gagner le championnat.
Mais quand ça, on n'a pas impossible. De moyens. Financièrement, oui. C'est impossible parce que non, tu parlais c'est... des jeunes.
Oui,
un
mais
jeune
c'est parce
entre signer pro à Lille ou signer pro dans un club de championship à Sunderland, il gagnera plus d'argent à Sunderland.
Ouais,
plus,
ouais, les mecs qui vont se barrer à Sunderland.
Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés, en fait. Parce que quoi, il n'y a pas l'amour du maillot déjà. Étant donné un jeune, on a eu des époques où des joueurs préféraient jouer en France que d'exploiter les talents. Parce qu'il y avait l'amour du maillot, parce que déjà, quand ils étaient en centre de formation, on leur disait que oui, ce club, il vous appartient, vous avez le droit de faire vos preuves.
Mais ça n'existe plus. Dans aucun club, ça n'existe plus.
Pourquoi ça n'existe plus? Parce que là, on fait place au profit. À un moment donné, si on décide de faire place au profit, que donc, qu'on s'en mette pas les doigts, de dire que oui, au final, qu'on perd les talents. Et quand on perd le talent, le championnat, il est dépourvu. Il y a une seule équipe qui peut se permettre d'avoir les meilleurs talents.
Bah, la réalité, c'est que la seule équipe qui peut aujourd'hui bloquer un joueur et le garder en ignorant toutes les offres, c'est le PSG. Toutes les autres vont se coucher devant n'importe qui.
Oui, il y a aussi le PSG, oui, peut-être un peu Marseille, mais une autre
Marseille,
fois...
Marseille, demain, quelqu'un arrive à 80 pour Greenwood, il part...
Et en plus,
c'est terminé.
Une autre fois, Lyon le faisait. Quand on prend la génération des Fieki, des Gonalon, c'est des gens qui avaient des offres. Mais j'ai mis celui-là.
Parce qu'ils n'avaient pas le niveau non plus. Fekir, si, à une époque.
Non, mais Gonalon, on savait qu'il avait le niveau. On a vu le cas avec Oussem Aouar qui a refusé de partir à Manchester City parce qu'il y avait un message derrière, en fait. Tout n'est pas dans. En fait, je crois que
il
tout n'est pas
fait
dans l'argent.
De sa vie aussi.
Voilà.
Ouais, peut-être.
Oui, toi aussi, n'est pas aussi dans l'argent aussi. C'est dit que, voilà, à un moment donné, oui, il faut donner de l'argent. Il n'y a pas que l'argent, en fait. Il y a un message qui doit être clair. Il y a les jeunes quand on les forme aussi. Ben, on prend le cas aujourd'hui. Ben excusez-moi un peu de sortir un peu du sujet, des clubs espagnols comme le Barça qui était à une période de disette, mais qui réunit de ses cendres. Parce qu'il y a eu un message où il y a un nouveau président qui est là, qui lui a dit que oui, cette équipe, c'est la vôtre, que vous ne voulez pas, faites vos preuves ici. Parce que nous, on compte sur vous, en fait. Oui, déjà, étant jeune, il faut leur donner certaines responsabilités. Quand tu as une responsabilité, tu sais que vraiment, en retour, tu te dois aussi. Tu vois, tu te dois aussi de te salir pour rendre ce club plutôt propre. Ouais. Mais s'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de message, en fait, on ne fait pas confiance aux jeunes, ben, il peut partir, on peut le remplacer par un autre jeune à un moment donné.
Mais moi, je pense qu'on fait confiance aux jeunes. Hein. Je pense que la Ligue 1, c'est la moyenne d'âge la plus faible des 5 championnats européens.
Ben quoi,
donc, c'est pas le problème.
Non, confiance comment, en fait? Il ne suffit pas de dire que je titularise le jeune une saison. Il y a des messages, en fait. Il faut déjà qu'on
mette. Mais le jeune, aujourd'hui, tu vas le titulariser 6 mois à Saint-Etienne. S'il est bon, il va partir tout de suite.
Les équipes font beaucoup de trading aussi.
Et les mecs, ils signent leur contrat pro en se disant je vais rester là 6 mois, 1 an, je pète tout, l'année prochaine je suis à Wolfsburg ou je suis à Everton.
Il y a un peu le cas, mais quand on prend le cas de Wesley Fofana, Déjà, il fait une sacrée saison avec Sainte.
Avec Sainte.
Il part tout de suite à l'Esther.
Mais il veut pas aller, le gars. Parce que lui-même, il le dit que oui, qu'il n'est pas chaud. Parce qu'il s'est dit que Sainte lui a donné la chance. Mais après, c'est les dirigeants.
Oui, non, excuse-moi. Mais pour le cas de Wesley Fofana, il a fait une interview. Il voulait y aller.
À l'époque, non, il m'a dit, début, il c'est parce pas. Que Leicester, en un an, je mets ma famille à l'abri, c'est terminé.
Au début, il voulait pas. Au début, c'est parce qu'après, ils l'ont dit que mais, c'est la chance de ta vie pour ne pas que tu la gâches. Sinon, au début, quand il y avait Leicester, il disait non, il fait ses preuves et tout. Mais après, quand on voit que les dirigeants te disent non, mais on peut pas te garder, il y a la masse salariale et tout ça,
il y a
les charges du club.
Avec le droit TV si bas, quel club peut cracher sur 40 ou 50 millions? Il donnerait tout, mais c'est normal.
À un moment donné, chacun a sa part de responsabilité dans l'échec du football français. Donc, il n'y a pas que le joueur, il faudrait que ce soit un débat qui soit organisé, qui soit étudié, essayer de voir des nouvelles perspectives, de mettre des nouvelles choses en place. Vous pouvez évoluer le football français, sinon on n'a pas fait que rigoler.
Merci, Cheikh Kenza. Vas-y, Amadou, très rapidement, après on va donner la parole à Modibo.
Mais surtout, en plus, la DNCG, eux, ils font pas de cadeaux. On n'est pas dans les clous. Eux, ils attaquent direct parce que Lyon, même Lyon, je pense que Lyon, ils sont dans l'œil du cyclone, là. Donc c'est vrai que c'est compliqué en France avec toutes les taxes. Tout
donc
ça.
Tu refuses 40 millions pour ton jeune. 6 mois après, on va te dire, t'es relégué administrativement en R1 ou en N2. Bah voilà, ton club,
avec Bordeaux, là, on
est
avec Bordeaux.
Avec Bordeaux,
bah oui, Bordeaux, c'est un grand club de France.
Gestion du président.
Modibo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ce qui s'est dit autour de la table et de John Textor avec ses critiques envers le président Nasser Al-Khelaïfi?
Comme il a dit mon collègue, c'est ça. C'est un peu la guéguerre des riches. C'est celui qui a plus d'argent qui gagne. Aussi, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire dans le football français. Parce que le Paris Saint-Germain domine. Hein. Domine clairement et il laisse pas la place aux petits clubs de s'exprimer.
Pour toi, c'est la faute du Paris Saint-Germain qui devrait laisser la place aux petits clubs?
Je dirais pas la faute du Paris Saint-Germain. Pour moi, mon avis, c'est la faute de La Brune. Pour moi, c'est lui qui donne trop de pouvoir au Paris Saint-Germain, qui calcule pas les petits clubs. En fait, il calcule le PSG et sa poche.
Du Exactement.
Coup, on peut pas avancer comme ça. Tant qu'il sera là, on ne pourra pas avancer.
Et tu penses à un remplaçant de La Brune?
Cyril Linette, qui s'était présenté face à lui, il était très bon. Et pour moi, il avait des idées pour le football français. Ce n'est pas forcément faire régresser le PSG. Ça peut être utiliser aussi la force du PSG pour permettre aux autres de progresser. C'est ça le but. Bah. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec CVC au moment du Covid, où CVC a donné une prime à la Ligue 1 et que 70% de cette prime elle va dans la poche du PSG, c'est pas possible. Alors que les petits clubs les plus en difficulté, Le Havre, Brest, ils tapent rien. Normalement, ça doit être répartition égalitaire ou à la limite, c'est vraiment tes grands seigneurs. Tu dis le PSG, on n'a pas besoin de ces 20 millions-là. Partagez-les, faites-vous des belles équipes, comme ça on a un beau championnat. Résultat, le PSG, ils ont pris 70% de l'enveloppe, mais pas de leur faute, c'est la LFP qui a décidé. Marseille a pris 20%, je crois, et le reste, ils se sont distribués la monnaie. C'est pas normal.
Mais tu parlais de Brest, parce que bon, on dit le niveau, il régresse. On voit que Brest en Ligue des Champions, ils ont réussi à se qualifier. Ils font encore
un
travail.
C'est un one shot. Rendez-vous dans 5 ans. Brest, ça se trouve, ils seront en Ligue 2.
Ils seront relégués.
Un championnat, tu vois.
Mais je veux dire, après, il y a d'autres trucs. Lyon, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'une équipe comme Monaco, en plus, à Monaco, ils sont exonérés d'impôts. Ils peuvent. Il y a plein de joueurs qui veulent. En plus, il y a plein de joueurs qui veulent aller là-bas parce que, enfin voilà, ils sont bien, la vie, tout ça. Comment une équipe comme Monaco. Ça fait quelques années, ils sont aux fraises, comme on dit. C'est de temps en temps, ils se réveillent, ils se qualifient. Monaco, on sait pas, ils sont où. Souvent, ils ont des très bonnes équipes et.
Et aussi, ils sont obligés de vendre leurs meilleurs joueurs tous les ans.
Cette année,
Akliou va partir, Ben Seguir va partir, ces mecs-là, ils
trading. Oui, il y en a beaucoup, même Singo, c'est pas celui qui reste et tout ça.
Ils font du trading, alors que bon, eux, ils ont quand même des moyens, Monaco. Oui, on peut pas me dire qu'ils ont pas de moyens. Ils payent pas d'impôts,
Mais ils arrivent généralement, Monaco, même en vendant leurs joueurs, ils arrivent toujours à s'arranger pour être dans le top 3, top 4.
Oui, parce qu'ils ont plus chance que le reste de la Ligue 1 et puis ils gèrent pas trop mal leur truc. Mais tu sens qu'ils veulent pas aller taper plus haut.
On dirait qu'ils veulent faire les troubles faits. Quoi.
Ouais,
alors
que
ils ont une bonne solution de recrutement aussi, il y a ça aussi.
Ouais.
Moi je crois qu'il y a aussi privatisé aussi les clubs français parce qu'on est un peu indoctriné dans non, il faut vraiment un breton à la tête d'un club breton, il faut par exemple un nordiste à la tête d'un club nordiste. Par exemple, quand on prend l'exemple en France, on a du problème
très rapidement,
à,
s'il te plaît,
on a du problème à tricher un peu sur, c'est-à-dire que sur nos voisins. Par exemple, en Angleterre, tu verras que tous les clubs sont privatisés. C'est des étrangers qui ont qui
en France, ça commence à être aussi.
Mais là, qui ont commencé à relever le championnat anglais. Quand tu vois aussi en Espagne, il y en a un peu, peut-être pas à, pas tout le temps, mais là-bas, les clubs, ce sont des socios. Soit on triche le modèle anglais, soit on triche le modèle espagnol, où il y en a une véritable organisation pour élever le football. Sinon là, ça...
Mais regarde, aujourd'hui, Lyon-Monaco...
C'est un déclin total. Hein.
Lyon-Monaco, Marseille, Paris, c'est pas dans les mains des Français. C'est que des propriétaires étrangers. Donc, en soi, c'est déjà le cas.
Oui, mais sur trois, on ne prend pas. Parce qu'il y a combien de clubs de l'élite ? Il y en a plus de 40. Quand on parle de clubs de l'élite, il dit bien qu'il y a un club de l'élite 1 et l'élite 2. Donc, il y en a plus de 40 sur 3. 43 sur 40, le pourcentage, il est infime.
Non, mais tu en as beaucoup plus que ça. Lens, ça appartient à un consortium anglais. Tu as le PFC, maintenant, c'est Red Bull et la famille Arnaud.
Oui, mais la famille Arnaud, c'est américain. C'est des Français.
Nice, c'est américain.
Strasbourg, c'est américain. C'est avec le City Group. Nice aussi. Enfin, voilà, il y a quand même la plupart des clubs top 10 français.
Il ne suffit pas d'acheter un club et ne pas consentir. Les moyens,
pas,
voilà, juste... n'est pas consenti les moyens financiers.
Mais ils investissent pas parce que la Ligue 1 leur permet pas d'investir. Si t'es en première ligue, tu sais que ton championnat il va être attractif, il va t'apporter des revenus. Les mecs ils sont pas cons, ils vont pas investir 500 millions pour en gratter 50 après.
Il faut investir déjà pour récolter plus tard. On a vu le cas de Leicester qui était une équipe déjà qui était
Très mais c'est
très
en première ligue, ça n'a rien à voir avec, avec la Ligue 1. On va passer à la suite. On va se faire une petite virgule avant de revenir sur Tottenham qui s'impose face à Liverpool. Liverpool qui subissent leur deuxième défaite de la saison. Newcastle qui s'impose avec Alexander Isak en grande pompe face à Arsenal. Rien ne va plus pour Arsenal. Arsenal qui ont perdu leurs deux matchs de la semaine en FL Cup et en FA Cup. On va y revenir tout de suite juste après la pub. De retour dans les locaux de Montparis FM, bien évidemment, on parle toujours de football et encore de football. Tottenham qui s'impose face à Liverpool à domicile pour le match aller en FL Cup, 1-0, deuxième défaite de Liverpool. Quels sont vos... Avec un match moyen, Liverpool, on les a vus un peu dans le dur, j'ai l'impression. Maxence, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Pour moi, j'ai du mal à lire cette cup avec des matchs aller-retour déjà en pleine phase du mois de janvier. Là, Liverpool, ils ont quand même beaucoup de défis à gérer en même temps. Ils Ligue des Champions, la Première Ligue où ils sont en tête largement. Pour moi, cette défaite, elle n'est pas significative. Il y a un match retour en plus pour se relever. Ils pourront très bien gagner 2-0 si vraiment ils prennent ça comme objectif. Et puis s'ils se disent que voilà... Deux coupes, plus une Ligue des Champions, plus un championnat, ça va faire beaucoup. Ils laisseront tomber le truc en perdant contre Tottenham. Ça n'a rien d'infamant ou de honteux non plus. Et voilà, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de matchs là. Les mecs, ils n'ont pas coupé en première ligue pendant les fêtes. Là, ils se retrouvent à jouer des matchs aller-retour en 16e de finale de Coupe de la Ligue. C'est trop. Ça ne sert à rien. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose à en tirer de ce match là.
Ok, merci. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Modibo ?
Moi aussi, pareil. Hein. Moi, je pense que c'est dû à la fatigue. Hein. On voit Liverpool enchaîner avec une intensité folle. Du coup, ce qui devait arriver arriva. Une défaite en coupe. Après, comme il a dit, elle n'est pas significative. Je pense qu'au match retour.
À Anfield.
Ouais, à Anfield en plus. Je pense que ça va être beaucoup plus disputé. Et je vois même une qualification de Liverpool. Hein.
Et qu'est-ce que tu en as pensé de Newcastle qui sont imposés 2-0 avec Alexander Isak sur 9 matchs, c'est 9 buts consécutifs, hein, c'est très très fort.
Ouais,
avec ce qui provoque
En plus je vois les buts, c'est pas des ils sont pas moches.
Ouais.
Franchement c'est un 9 de folie.
Tu as des buts, son apport dans le jeu, il est incroyable.
C'est incroyable.
Ouais. Il est super technique. Ouais.
Il a une intelligence, il a toujours un coup d'avance sur ses défenseurs.
Il est là où il faut être, toujours la bonne déviation, la bonne touche. Non, franchement, rien à dire sur Isak. Après, Newcastle suit son joueur, ça veut dire que eux aussi font des bons résultats.
Du coup, parce qu'on parle aussi, il y a Gordon aussi qui est pas mal. C'est vraiment un collectif prime déjà avec des individualités fortes, notamment comme lui. Il y a Guimarães au milieu de terrain tout simplement spectaculaire lors de ses derniers matchs. Et c'est pas contre n'importe qui. Il s'impose à Arsenal 2-0 avant de jouer le match retour au St James Park.
Ouais.
Ils prennent une option réelle sur ce match.
C'est ça. Le match d'avant, ils ont affronté United, je crois.
Il me semble, oui.
Et le match d'avant aussi, ils avaient affronté Chelsea aussi. Ça veut dire qu'ils ont gagné.
Que des victoires.
Franchement,
Mais avec le même 11.
Avec des gros candidats. Hein.
Ouais. Après, leur 11, bon, ils ont pas beaucoup de remplaçants, je trouve, quand même.
Ils n'ont pas une profondeur.
Bah, ils ont quelques blessés, notamment là, dernièrement. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces résultats-là? Et aussi Arsenal qui perd à United, perd à domicile face à United aussi, au tir au but, avec une équipe qui a été réduite depuis la 60e minute. Ils ont joué une heure sans en étant à 10, et ils ont réussi à tenir United. United qui on voyait sombrer, hein, réellement. On les voyait sombrer, surtout avec le calendrier qui arrivait. Ils étaient sur 4 défaites consécutives. Et ils arrivaient, on leur disait, bon, il reste Arsenal, Liverpool, etc. Ouais. On disait, ah bon, là, franchement, on voit pas comment ils vont sortir de ce pétrin. Mais on dirait qu'United aime ça, aime les gros défis cette saison. Et ils ont fait match nul à Liverpool, hein, en les tenant en échec 2-2, et là ils reviennent encore, ils nous font l'exploit de sortir Arsenal en FA Cup.
Arsenal très très mal en point, que ce soit même en championnat. Enfin, quoi qu'en championnat, ils sont pas trop largués. Mais bon, après on voit, même si une équipe ça se résume pas à un joueur, on voit que le manque de Saka aussi, parce que c'est lui leur buteur, leur passeur.
Clairement, pour eux, en tout cas, on peut le dire. Hein, parce qu'on a vu, quand Saliba est parti, ça s'est écroulé derrière. Et là, quand Saliba a été blessé, c'est là qu'ils ont perdu le titre l'année dernière.
Ouais.
Voilà. On peut dire ça aussi. Et là, avec Saka qui n'est pas là, il n'y a plus d'animation offensive. Arteta parlait du ballon, que le ballon était plus léger qu'en première ligue. Du coup, il devrait peut-être le conformer parce que parce qu'il y a eu beaucoup de tirs au-dessus. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de tirs au-dessus.
Même avec Saka, sur les 3-4 dernières semaines, on voyait que le truc des coups de pied arrêtés, il marquait plus que sur coups de pied arrêtés. C'était corner 1-0.
C'est
pas des grandes performances.
Et en plus, hier, quand tu vois le match de Havertz, c'est catastrophique,
il n'y a pas de tueur, mais en fait, comment avec une équipe comme Arsenal, avec Martinelli, Havertz, c'est un bon remplaçant, mais c'est pas avec des joueurs comme ça. Sterling, pourquoi ils ont acheté Sterling? Pourquoi Arsenal n'achète pas de tueurs? Ils ont de l'argent. Faut un mec avec du sang-froid.
Arteta arrive un peu. J'aime les faux neufs aussi.
Ouais, voilà,
un peu comme Pep Guardiola.
C'est ça. Ils veulent pas prendre de. Même, mais c'est dommage parce que bon, les gens ils vont rigoler sur moi peut-être. Kolo Muani, c'est dommage, il aurait pu aller dans cette équipe. Hein.
Non, Kolo Muani, il va jouer par Russie en première ligue. Là. Déjà avec sa nonchalance et tout ça. Ça
non, il est pas nonchalant, le mec il va au charbon. Non, il est pas nonchalant.
Il va réussir là-bas. Pourquoi pas?
Mais déjà, même au PSG, il peine.
Après, le PSG, c'est.
Ouais. Moi, c'est spécial. Et pour moi,
c'est pas lié à son profil, le PSG.
Voilà. Ouais. Et en plus de ça, il a pas eu de joueurs pour le servir. On l'a vu à Nantes, il avait des joueurs pour le servir. À Francfort, il avait des gens pour le servir. Surtout au Paris Saint-Germain.
À Nantes et à Francfort, il jouait face à des équipes qui jouaient haut face à lui. Il avait de l'espace dans le dos. Ouais. Là, au PSG, il joue que contre des bus. C'est pas son football.
Et il a aucun centre.
Il aura des espaces.
En première ligue, il aura pas de centre.
Oui, je vois par exemple un joueur soit comme Guirassy ou bien comme Boniface Arsenal.
Guirassy aussi sera.
Arsenal, ça aurait été un bon profil. Je crois pas. Je sais pas s'ils ont vraiment sa cellule de recrutement. Comme les autres clubs aussi, ils étudient vraiment la joueur de façon minutieuse.
Non, ils veulent pas. Après, je pense que c'est un choix délibéré parce qu'aujourd'hui, ils peuvent poser même Jokeres, ils peuvent essayer de l'avoir et poser 80 millions, voire 100
peut-être
millions.
Peut-être Arteta qui veut pas.
Oui, il me semble que c'est ça.
Confiance à son équipe.
Après, Jokeres, c'est sûr que là, on voit, c'est le gars qui est en bombe, qui marque tout le temps. Mais après, c'est pas sûr que dans un gros club, il réussisse.
Pas sûr, moi.
Après, il peut, comme ça peut être un flop.
Bon, parce que excusez-moi, mais s'il y a un joueur qui plante autant de buts et on dit que ça ne sent pas bon s'il arrive dans un top club, excusez-moi, mais
après
voilà,
on a vu d'autres, hein.
Bien sûr.
Et
bien
puis
sûr.
Le mec qui pète à 28, à 26 ans comme ça d'un coup, je sais pas.
Non, est-ce que c'est pas... il a pas 26 ans.
Il est un peu vieux.
Ah, pour moi, il a 26 ans.
Non, il est un peu vieux. C'est vrai qu'il est vieux.
Allez-y, continuez.
C'est vrai qu'il est vieux, il a percé tard.
Ouais, et d'ailleurs, ils en parlaient à United aussi avec Amorim, du coup.
United, on peut mettre n'importe quel joueur.
Messi,
Cristiano, Zlatan.
Non,
je sais pas ce qu'il y a.
En fait, j'ai
l'impression qu'à Manchester, il y a un problème au niveau de la famille là, qui gère le.
Les Glazers là.
Ouais, je sais pas. C'est trop bizarre, je sais pas.
Et là, il sort de deux bons résultats.
Excusez-moi, mais j'ai envie de vous dire, à peu près depuis 2021, il est assez constant. Hein. C'est 17 buts quand même marqués avec Convetri. Hein. Ouais. 17 avec buts Convetri. Marqués, 5 assists. Ensuite, après, c'est 21 buts marqués, 12 assists. Non, mais en gros, ça monte progressivement. Ouais, et les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui pètent en une saison et après, voilà. Mmh. Mais il y a les joueurs qui arrivent progressivement comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Qui ont connu un peu le tout. Être moyen dans les stats, être de plus en plus fort, monter en puissance. Ouais. Réellement, je pense que...
Après, pour moi, quand tu vois le niveau de scouting aujourd'hui, si le mec est vraiment une star, à 20 ans, on le voit, tu vois. Et je lisais dans SoFoot des explications de ses anciens entraîneurs, coachs, coéquipiers, quand ils jouaient en D2 anglaise et tout. Les mecs sont choqués. Ils disent, mais jamais on aurait pensé que c'était un joueur.
Techniquement, c'était exécrable.
Il a dit sa première touche a été pas mauvaise, a été catastrophique.
Mais là, on le voit par exemple s'adapter, parce qu'il y a des joueurs comme ça, on voit en pleine bourre, mais quand on les voit en équipe nationale, c'est pas bon. C'est pas aussi bon. Mais là, même en équipe nationale, on le voit même s'il combine. En sachant qu'il y a Alexander Isak. Il y a Alexander Isak, mais il marque plus qu'Alexander Isak. Et il marque dans des bons matchs face à des bonnes équipes.
Il a marqué face à.
Oui. Mais pour moi, il a une relation au ballon qui me dérange un peu. Même là, actuellement, quand tu le vois au Sporting, il y a des moments, il y a des contrôles, il y a des trucs où tu vas dire c'est un truc de fou.
C'est vrai. Mais c'est parce qu'on demande un 9 de base. Un 9, on lui demande d'enfiler les buts après les buts. Ouais. Tu peux avoir le mauvais contrôle. Oui, tu peux louper un contrôle. Mais si tu as le sang-froid devant le but et que tu arrives à mettre les buts qu'il faut.
Après, peut-être qu'il a eu le bon coach, tu passes. Amorim. Qui
le
a
bon
su
système, le bon truc,
le bon
sûr.
Système qui lui allait et qui a su le mettre en confiance.
Moi, demain, même âge, même nationalité, même prix. Entre Gyökeres et Isak, je prends Isak tous les jours.
Isak, c'est un joueur de foot.
Les deux, ça va se pas tous en même temps. Les deux, ça commence à devenir
entre 80 et 100 millions. Les deux, si j'ai le choix, c'est Isak tous les jours. Il n'y a pas de débat. Niveau football, c'est pas la même classe de joueur.
Est-ce que Newcastle laisseront partir Alexander Isak?
Je vois pas.
Non, mais il proposait 180 millions.
Il partira, mais ça peut être un des plus gros transferts de l'histoire s'il part. Mais qui va l'acheter après?
J'ai entendu 180 millions.
Le Paris Saint-Germain?
Non,
ça m'étonnerait. Mais en tout cas, au PSG, il pourrait se régaler. Moi, mais ça m'étonnerait.
Il pourrait se régaler.
Moi, pour moi,
parce qu'il peut jouer faux neuf, il peut jouer vrai neuf. Il sait jouer avec le jeu, en fait. En fait, Alexander Isak, je vois pas dans quel système il ne pourrait pas s'adapter.
Au Real, sans prendre Mbappé, j'aurais pris Isak. T'as besoin d'un neuf, d'un mec de surface.
À ce moment-là, t'aurais pu prendre. Oui, mais à ce moment-là, t'aurais pu prendre Harry Kane. Il y a deux ans, t'aurais pris Harry Kane. Mais t'es sûr que quand tu peux pas prendre Harry Kane et que t'as Mbappé, on va revenir sur Mbappé juste après. Mais Mbappé qui commence à retrouver des couleurs. Et à ce niveau-là, même là, il joue en pointe. À ce niveau-là.
Ouais. Mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'à gauche, il serait encore meilleur.
Peut-être possible, mais est-ce qu'il serait meilleur que Vinicius à gauche?
Non,
est-ce qu'il aurait eu un plus gros apport que Vinicius à gauche?
Non, pour moi, la construction de l'effectif n'est pas bonne. On y reviendra.
On y arrive, on a un chapitre dédié que pour ça. Pour l'instant, on parle un peu d'Arsenal qui voudrait s'exprimer très rapidement un peu sur Arsenal qui a subi ces deux défaites-là et face à United qui retrouve peut-être un peu de couleur.
Ouais, United, pour moi, c'est le profil d'équipe qui est plus facile. Ils ont plus de facilité à jouer quand ils font pas le jeu, quand ils jouent contre les gros. Donc Liverpool, Arsenal.
Quand ils sont dos au mur.
Ou en transition rapide.
Bah, Amorim avec le Sporting contre City, c'était totalement ce qu'il aimait, tu vois. Transition rapide, le bloc de 5, les pistons qui vont vite sur les côtés. Et ils ont plus de mal contre les petites équipes à faire le jeu quand ça joue Sheffield, quand ça joue Nottingham, etc.
Nottingham, ils sont 3e.
Excusez-moi. Respectez-vous, s'il vous plaît. On parle chacun son tour.
Mais dans la tactique que Nottingham, dans laquelle ils abordent les matchs, c'est une tactique de petit quand même. Même s'ils sont deuxième, troisième, qu'ils font une super saison, ils commencent le match quand même avec un bloc bas, un bus, et puis après, ils contrent.
Après eux, ils ont quelques petites, enfin, entre guillemets, individualités, parce que bon, on va dire, ça se fait sur plusieurs années, parce qu'il y a une année, dès qu'ils sont remontés, ils ont mis, je crois, c'était eux qui avaient acheté le plus de joueurs.
Ils ont refait tout l'effectif.
Ils avaient Aurier à la longue.
Ils avaient fait une saison pourrie d'ailleurs. Ils avaient fait une 17ème l'an dernier. Ils ont réussi à se maintenir. À l'arrache.
Et les équipes qui réussissent à se maintenir sont dangereuses parce que, quand on l'a vu avec Leicester une année, ils avaient failli descendre et après ils ont gagné la première ligue.
Bah là, en tout cas, on voit et Nottingham Forest qui ont infligé la seule défaite en première ligue à Liverpool. Et le prochain match, ça sera Liverpool, Nottingham Forest. Ouais. Et ça jouera à Nottingham Forest, Liverpool qui auront à cœur de reprendre leur revanche. Et sur un concurrent direct, c'est un match à 6 points. Hein. Clairement, voilà, ça, c'est les matchs à 6 points. On va se faire une petite pause avant de revenir sur la Supercoupe et sur la Liga, notamment avec le match catastrophique du Real Madrid et la très belle victoire du FC Barcelone. On y revient dans très peu de temps.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour sur le plateau Au bout du foot. Il est 21h18, si vous venez de nous rejoindre, nous allons enchaîner avec la Supercoupe et ce qui s'est passé hier, la débâcle qui ont subi les Madrilènes face au FC Barcelone, hein, 5 buts à 2, avec notamment des performances magistrales, que ça soit de la part de Lamine Yamal et de Rafinha, auteur d'un doublé aussi. Quelles sont vos impressions chez Kenza?
Ouais, je crois que le Real Madrid est un peu dans le dur. Ça se voit. Chaque fois, quand cette saison, c'est deux défaites face à Barcelone, où les entames de match ont été réussies. Après aussi, je crois qu'il y a ce problème au milieu de terrain, où il n'y a plus vraiment ce Toni Kroos qui pouvait dicter le tempo, qui savait t'imposer, qui savait aussi mettre un peu ses ballons en profondeur. Il n'y a plus, en fait, cette domination du milieu de terrain que le Real avait quand tu regardes les derniers classicos. On a vu que le Real avait la même mise sur le ballon, c'était un peu l'inverse. On avait constaté que la masse était en blanc. Mais là, ces derniers matchs, on a vu que le Barça, vraiment, c'est un football anti-flic, comme je le disais au début d'émission de la saison anti-flic. Il a su vraiment mettre une équipe en place qui est là que pour la gagne. Avec une défense qui joue le hors-jeu à la limite près. Avec des jeunes de la Masia, vraiment, qui sont très en confiance. Quand tu prends un Mac Casado, vraiment, qui à chaque touche des balles, qui arrivait vraiment à anéantir ce milieu de terrain du Real de Madrid. On a senti un Valverde émoussé, voilà, qui n'était pas, pas concerné, un Camavinga qui était vraiment à la boude, qui crée un penalty. Bah oui, et ça prouve un peu que le Real n'est pas vraiment là. Hormis qu'il y a Mbappé, voilà, qui joue le jeu un peu, la défense vraiment, c'est catastrophique. Tchouaméni, déjà, pour lui, c'est un joueur. Tchouaméni, pour moi, ça n'a jamais été un super grand joueur. Pour moi, Tchouaméni, ça a toujours été un joueur limite. Voilà, juste qu'il a été formé au Girondin. Après, il a un bon tremplin à Monaco et il part à Madrid. Mais quand on regarde dans le jeu, Tchouaméni, c'est un joueur qui s'est fait que des passes. Aucune prise d'initiative, il casse aucune ligne. Mais regardez, le conseil est là, c'est aberrant, c'est factuel. Depuis deux saisons, il est là. Il n'y a pas une marge de progression. Du coup, en défense, c'est catastrophique. Sur le placement, sur les fautes, sur les relances, il n'a aucune anticipation. Mais le mal est fait. On ne peut que constater vraiment que le Real de Madrid est à la ramasse. Et le score vraiment reflète le match.
Ouais, merci, Cheikh Kenza. Oui,
Modibo. Parce que ça fait deux classicos cette saison. Et en tout, ça fait 9-2.
But. Voilà. 9-2. Le constat
est
là.
C'est incroyable. Franchement, de la part du Real Madrid, c'est.
Il y a une question en tête.
Ouais. Ancelotti devrait régler tout ça là. Parce que c'est pas bon.
C'est tout ce que tu as à dire, c'est pas bon.
Franchement, c'est pas bon.
Amadou.
Là, on voit que le Barça, c'est la bête noire du Real. Pourtant, le Real qu'on voit au-dessus, on dit meilleure équipe d'Europe. Enfin, peut-être pas cette année, mais on dirait que le Real peut battre tout le monde. Mais dès qu'ils sont contre Barcelone, Barcelone peut perdre plein de matchs avant, mais contre eux, je sais pas, cette année, ils n'y arrivent pas. Là, il y a leur tactique là, du hors-jeu qui les met à défaut à chaque fois. Enfin, par contre, il faudra faire attention parce que quand ça sera à la limite, bon, maintenant, ils profitent aussi un peu bien sûr, de la VAR parce que maintenant, ça se joue à quelques millimètres. Il suffit que pour une petite épaule, pour rien du tout, on est hors jeu. Donc, finalement, ça tient bien contre le. Ils ont bien dû. Hansi Flick a bien dû regarder en vidéo le Real. En tout cas, là, il les a dans sa poche. Là.
Ouais.
Non, on dirait qu'il n'y a, a rien à faire. On verra le match retour. Bon, peut-être que je pense que les Madrilènes seraient peut-être concentrés un peu plus sur le match retour. Parce que là, bon, c'était, même si c'est un trophée, c'est la coupe. Mais pour l'instant, ils sont dans la poche de Barcelone.
Après, il y a eu un bon match de Kylian Mbappé. Faut pas l'oublier. Il marque dès le début. Il provoque la faute qui ramène le coup franc.
Donc, et moi, le carton rouge, notamment.
Ouais, le carton rouge aussi. Du coup, pour le Real, c'est ça qui est à retenir, je pense. Hein. Je pense que c'est ça qui est à retenir. Le retour en forme de Kylian Mbappé. Et il va falloir s'appuyer sur ça.
Carlo Ancelotti qui a dit hein, nous avons mal joué de la première à la 90e minute. Hein, nous n'avons pas bien joué. Tout le monde a mal joué, hormis Kylian Mbappé. C'est un discours fort aussi qu'il envoie. Parce que Kylian Mbappé qui a été décrié pas mal ces derniers temps. Et même là, il a été épargné par la presse espagnole. Hein, il a fait, on va dire, du mieux qu'il pouvait. Hein, ça fait plaisir de voir hein, Kylian Mbappé à ce niveau-là, qui commence à retrouver des jambes. Et même quand il ne marque pas maintenant, que ça soit dans le jeu, il va essayer de tenter une passe décisive, un truc. Ouais, je repense à la talonnade aussi qu'il met à Bellingham.
Ou même sur Aroro.
Même que ça soit en dehors de ce match-là, il commence à réellement retrouver des couleurs. Et on le voit, franchement, on le sent en confiance et on le sent beaucoup plus libre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxence, de tout ça?
Pour moi, Ancelotti, déjà, il est un peu dur avec Courtois parce que quand il dit tout a été acheté sauf Mbappé. Pour moi, Courtois a fait aussi un beau match. Il ne peut pas faire grand-chose sur les buts. Et puis, il a quand même sauvé un petit peu. Après, le problème du Real, c'est que le Real est incritiquable le reste de l'année. Et on en a parlé déjà plusieurs fois. Contre Milan, ils perdent. Pour moi, la prestation au Bernabeu, elle était catastrophique ce jour-là aussi. Contre Dortmund, pour moi, il y avait des grosses limites. Et le triplé de Vinicius en 10 minutes sur la fin, ça masque beaucoup de lacunes qu'on a vues avant, mais qui sont effacées par le résultat. Parce qu'on dit, mais le Real 4-2, ça gagne. Qu'est-ce que tu veux dire 5-2, ouais. 5-2, ça gagne. Qu'est-ce que tu as à dire? T'as plus rien à dire, c'est mort. Mais quand tu te projettes un petit peu, tu regardes les gros matchs du Real cette année. Barça deux fois, Liverpool. Milan,
Lille,
Dortmund,
Lille aussi, ça perd.
Ouais, Lille, après, je compte pas comme
un gros match.
Mais je veux dire, les matchs dans lesquels on se dit, ah, attention, il y a l'Atalanta pour moi qui est bien géré par le Real. Ouais. Mais sinon, Bilbao, compliqué, Liverpool, compliqué, Milan, Dortmund, compliqué, Barça, compliqué. Pour moi, l'équilibre de cette équipe, il est pas bon et on peut pas réussir comme ça. Je reprends le troisième but d'hier, le but de la tête de Rafinha là. La relance, c'est Tchouaméni qui donne à Courtois qui lance sur Vinicius en l'air. Et il perd son duel. Et après, t'as les quatre devant. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Les quatre qui sont statiques comme ça. Et qui acceptent la... Et qui à peine ils marchent. Et ils acceptent la transition. Mais derrière, c'est pour n'importe quelle équipe de cette qualité-là, c'est royal, c'est facile. Un milieu comme le Barça, ils sont trois face à deux mecs. Les pauvres, Valverde et Camavinga, je suis d'accord pour leur taper dessus, ils n'ont pas fait un bon match. Mais dans ce système-là, quel milieu de terrain aurait fait un gros match? Pour moi, c'est impossible. Ouais. T'es deux et t'as des vagues qui arrivent avec les deux latéraux, les trois milieux en face, les trois attaquants. Yamal qui vient dans le cœur du jeu. C'est impossible, c'est ingérable à deux. Ils doivent gérer toute la largeur à deux. C'est impossible.
En fait, il y en a trop qui montent un peu. Tout le monde monte au Real, les quatre sont là maintenant.
Ouais. Bellingham, à la base, pour moi, Bellingham, c'est un 8. 8 qui peut se transformer en 10 éventuellement. Ouais, le mec, il joue 9,5.
Parce qu'en fait, on dirait qu'il a envie de marquer tout le temps.
Il est en mode, maintenant, c'est mon équipe, je veux stater. Ouais. Mais c'est pas son jeu, mec, t'es 8. Tu dois être au milieu, là, tu dois donner un coup de main à Camavinga, à Valverde, pour être comme Pedri, il est en face, tu vois, cette même position. En fait, même si c'est 4-5 buts de moins dans l'année ou 10. Ça sera bénéfique pour le Real à long terme et surtout pour ces matchs-là. En Liga, ça suffira et je pense qu'ils gagneront la Liga sur les qualités individuelles parce qu'ils jouent contre des bus. Et mettre 4 attaquants, c'est Vinicius, Rodrigo, Mbappé, il y en a toujours un qui fera la différence, qui sortira de son chapeau. Mais pour les gros matchs, Coupe d'Europe, etc., pour moi, j'ai une grosse limite avec ces 4 là devant. Pour moi, il faut faire un choix et tu ne peux pas jouer comme ça. Et les attaquants qui vont rester, il va falloir qu'ils se mettent à défendre un moment ou un autre.
Soit qu'ils défendent, ouais.
Tu peux en avoir un qui fait pas les efforts, mais 3 ou 4, c'est pas possible. Ouais. T'amputes la moitié de ton équipe, en fait. T'as la moitié des mecs qui courent pas. Et en face, le Barça, même s'il y a des joueurs un peu plus limités, ils courent tous. Il y a pas que des génies du foot. Hein. Koundé, Baldé, c'est pas non plus des artistes.
Très, très, très fort.
Mais il a été, très fort. Mais ce que fait Koundé, je pense que beaucoup de joueurs du Real peuvent le faire, tu vois. Mais c'est juste que c'est un effort collectif. Yamal, il presse. Rafinha, c'est la star. Enfin, il marque plein de buts, mais il fait tout ce qu'il
veut. Il me semble que le gros problème, au Real Madrid,
c'est la défense.
Depuis Carvajal n'est plus là, oui, parce que ça aussi, avant ça gagnait des matchs, on disait ouais, ça produit pas beaucoup de jeux, mais ça prenait pas autant de buts derrière. Ça gagnait 1-0 sur un but de Brahim Diaz ou sur.
Mais est-ce que les fragilités de ta défense, elles se voient pas plus parce qu'ils prennent des vagues justement, parce que ça défend pas devant.
Non, oui, il y a peut-être ça qui joue, mais ça a toujours joué comme ça, en tout cas depuis le début de saison. Et ça prenait pas autant de buts en début de saison avec Carvajal derrière et même Eder Militao quand Eder Militao était là avec Rudiger dans l'axe, ça pouvait prendre un but. Mais tu mets Tchouaméni qui n'est pas à son poste. Tu mets Tchouaméni qui n'est pas à son poste au milieu. Ce que je ne comprendrai jamais et ce que je comprends pas du côté de Carlo Ancelotti, t'as un jeune Asensio, tu dois le faire jouer en défense. Il est défenseur poste. Il a pas fait de grosses dingueries depuis le début qu'on l'a aligné. Il a même plutôt fait des bons matchs. Tu dois l'aligner. T'as Lucas en sachant que t'as Lucas Vázquez parce que si tu mets pas Aurélien Tchouaméni dans l'axe en défense. T'as Lucas Vázquez, t'as un mec qui doit couvrir Lucas Vázquez quand
même. Qui n'est pas latéral.
Et qui n'est pas latéral, mais qui a joué beaucoup latéral. Ouais, maintenant, on peut dire c'est devenu son poste. Mais Lucas Vázquez, il est toujours à la ramasse. Ouais. Il laisse toujours Rafinha. Au match aller, c'est le même but qu'on se prend. Il laisse Rafinha dans son dos. Deux buts, il y a deux buts qui sont pour Lucas Vázquez, qui n'est pas replacé. Il le laisse tout seul, il le prend de la tête, c'est but. C'est deux trucs faciles. Lucas Vázquez, pourquoi il sort? C'est parce qu'il est toujours à la ramasse. Ouais. Il est toujours devant, il est toujours à un endroit où on ne l'attend pas. Et à ce moment-là, quand tu as un mec comme Lucas Vázquez, que tu sais qu'il peut aller se perdre en attaque et ne pas redescendre, il te faut un défenseur vrai axial de fonction qui puisse couvrir derrière. Quand tu mets Tchouaméni, il est perdu à ce moment-là. Comment tu veux qu'il réussisse dans un match comme ça en sachant qu'il le met que dans les gros matchs où il se dit je vais mettre Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain pour pas faire de choix au milieu de terrain, pour pas faire de choix de pas sortir Kamavinga ou quoi. Et même Kamavinga, pourquoi il se retrouve dans la surface à défendre? C'est pas son rôle.
Pour moi le choix il doit être fait devant. En fait, le choix il doit être fait devant avec trois offensifs et au milieu t'en as trois. Tu peux avoir une défense aussi solide que tu veux. Si tu prends des vagues parce que les quatre ils restent devant à regarder les bras croisés, tu y arriveras pas. Tu peux y arriver sur un match ou deux, mais
hier Bellingham n'a pas fait un bon match. Mais d'habitude Bellingham on le voit toujours courir. Tu regardes dans les kilomètres, il est toujours en train de courir entre l'attaque et la défense. Il récupère des ballons, il va redistribuer, redonner à l'attaque et venir finir aussi. C'est juste hier il a pas pu le faire.
Mais en fait il en fait trop, je pense.
Et lui il va se lasser à mon avis. Il va se lasser de faire alors que les autres font pas.
Moi sur les derniers matchs que je vois de lui, le mec je sens qu'il est essoufflé, un truc de ouf, parce qu'en fait il veut tout faire, il veut se montrer, il veut être la tête de gondole vu que maintenant il y a Mbappé, bon après il y a Vinicius. Peut-être qu'à mon avis aussi il a aussi dans la tête le fait qu'il y a le Ballon d'Or, il aura pu gagner le Ballon d'Or. Et il veut faire le mec qui veut faire tout, quoi. Et je pense que c'est pas bon non plus. Je pense que chacun doit... En fait, au Real, il y a personne qui est à son poste, en fait.
Et au-delà de ça, on sent une tension au Real. Ouais. Les mecs, ils sont pas tranquilles, en fait. Ça peut arriver des mauvaises perfs dans l'année et tout. Mmh. Mais t'as l'impression qu'à chaque match, hier, Bellingham, c'est presque du catch qu'il fait sur Koundé en dehors du terrain. Vinicius, il est tendu sur chaque match. Ouais, il y a des aléas, etc. Dès que ça se passe un peu moins bien, les mecs, ils sont hyper tendus. Tu sens pas de sérénité. La sérénité que pouvait dégager le Real dans les grandes années avec... des gros joueurs.
Enfin, oui, 2-3 ans, déjà, même pas.
Mais tu sentais une sérénité.
Bien évidemment.
Mais Benzema, il y avait une sérénité qui se dégageait du truc.
D'accord.
Là, les mecs, tu sens qu'ils sont sur les nerfs.
Mais ça s'est mis en place. Ils ont joué pendant 15 ans avec Karim Benzema. Qui aurait pu penser.
Ça fait 5 ans qu'il est au Real.
Ça n'est pas le même.
C'est pas la même maturité.
Ça n'est pas aussi le même cadre. Tu vois, là, Vinicius, il est en pleine expansion. Là, il arrive, il commence à prendre des trucs, etc. Mais c'est pas. Voilà, on va dire, c'est pas le leader incontesté. Avec ses problèmes à chaque fois qu'il a en dehors de ses performances et de ses matchs, il ne peut pas être le leader incontesté.
Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader incontesté.
C'est bien ça le problème. Bengam, parce que quand il y avait Karim Benzema, tu sais que c'était Karim Benzema. Avant Karim Benzema, tu sais que c'était Cristiano Ronaldo.
Modric, il joue qu'un match.
Ça n'est pas possible. À la limite, t'aurais pu dire Carvajal quand Carvajal est sur le terrain. Carvajal, il va donner le ton, il va assurer à son poste, il va marquer quand
il
faut marquer.
Offensivement, il faut un leader. Offensivement, il faut un mec qui porte responsabilité.
Après, il y a quand même Rudiger. Je pense que Rudiger, quand même, il a.
Rudiger est un leader dans son être, mais il n'est pas un. Voilà, c'est un cadre. Mais c'est pas un leader dans le sens où il va. Je sais pas comment t'expliquer
il
un
va
leader.
Faire passer le message aux jeunes voilà quand il y a des situations un peu tendues lui qui va prendre le premier rôle
il va avoir le bon comportement il va avoir le bon comportement ce qu'il faut faire la niaque etc mais le reste c'est compliqué en sachant que en défense tu vois bon il y a Ferland Mendy mais il y a que Rudiger qui est à son poste Et si Rudiger, il doit rattraper déjà toute la défense, déjà toute la défense, faut faire ci, faut pas faire ça, faut faire ci, faut pas faire ça. Et en plus de ça, aux autres joueurs qui sont en attaque, c'est très compliqué. Moi, je pense que le réel problème du Real Madrid, il faut recruter en défense. Il faut recruter. Au bout d'un moment, tu peux faire une saison sans défenseur parce que Alaba qui se fait les croisés, Eder Militao qui t'a fait les croisés aussi, t'as pu pallier, on va dire, pendant une saison. T'as gagné la Ligue des Champions sans défenseur axial. T'as gagné la Ligue des Champions plus la Liga et plus la Supercoupe, etc. Au bout d'un moment, il faut recruter, quoi.
Et pourtant, tu peux gagner avec les quatre avec les quatre devant. Tu peux gagner dans cette formule-là.
Pour moi, dans cette formule-là, moi, dans cette formule-là, tu peux gagner.
Okay.
Parce que j'ai vu, à certains moments, j'ai vu des bonnes choses quand même en attaque. Où maintenant, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont compris. Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps, mais je pense qu'ils ont compris dans le sens où il sait maintenant où est-ce qu'il va trouver Mbappé.
Offensivement,
Mbappé,
ouais. Mais moi, dans les phases de transition défensive, même c'est ça qui me pose question.
Oui, non. Moi, franchement, tu vois, c'est pour moi, c'est très simple. Quand tu les vois dans les phases à transition rapide, tu le vois très bien. Mbappé va prendre une profondeur, Vinicius va prendre l'autre.
Non, à l'inverse.
Si tu choisis l'un
transition défensive, perte de balle.
Ah oui, non.
À la perte de balle, comment tu fonctionnes?
À la perte de balle, ce qu'il faut déjà, un bon défenseur axial déjà, pour commencer, pour pouvoir remonter Tchouaméni en défenseur central.
Oui,
non,
tu perds un ballon à 80 mètres de tes buts, tu vois. C'est ça, c'est là où les attaquants ont un grand rôle, comme on le voit avec Liverpool, où Gakpo, Salah, Jota, ils vont direct harceler le porteur Luis Diaz récupérer des ballons. C'est ça que le Real ne fait pas, et c'est ça, à mon avis, qui va causer leur perte, c'est-à-dire que tous les ballons, ils les récupèrent à 40 mètres de leur but. Il y a des ballons que tu dois récupérer à 80 mètres, 90 mètres et asphyxier, comme le Barça le fait très bien avec Rafinha, avec Yamal. Exactement. Et à mon avis, c'est ça où les transitions défensives à la perte de balles, où le Real, déjà le premier rideau, il est éclaté forcément. Et donc, les mecs arrivent lancés sur deux milieux de terrain.
Il te reste que deux joueurs.
C'est
C'est vrai.
C'est dur.
C'est vrai qu'on voit tous les. On parlait même du problème à Vasquez. Vasquez s'est fait manger. C'est pareil contre Milan, la dernière fois, il s'est fait manger par Leao.
Parce qu'à un moment donné, les cadres de devant, ça défendait pas.
Il est pas à son poste. Franchement, Vasquez.
Et hier, les cadres de
devant. Vasquez, c'est un couteau suisse. Pour Vasquez, il n'y a pas de problème. Mais parce que même avec Zidane, il a toujours assuré. On a vu, même avec Zidane, les trois Ligues des Champions, on a vu que c'était vraiment le remplaçant de Dani Carvajal. Hormis quelques fois avec l'ascension d'Hakimi, qui jouait des bouts de match, mais Vasquez, il a toujours été comme ça. Soit il a toujours été remplaçant.
Ouais, mais c'est ça qui n'a jamais fait prendre la place de titulaire indiscutable. Et c'est ce que tu te dis à chaque fois, si demain Carvajal n'est pas là, tu es obligé de recruter. Tu peux pas laisser Lucas Vázquez seul et latéral droit, ça n'est pas
mais
possible.
Mais là, en ce moment, c'est un pour parler. Parce que là, on parle d'Alexandre Arnold qui doit venir.
Mais c'est pas mieux défensivement.
Même parce que défensivement,
c'est pas mieux.
Excusez-moi, doucement.
Mais à Madrid, on a toujours eu la doctrine d'avoir des latéraux qui ont été ultra offensifs. Hormis Roberto Carlos, on a toujours des latéraux. Marcelo, défensivement, c'est catastrophique. Mais offensivement, ça te met des ballons, ça fait gagner des matchs.
Casemiro,
il y avait des milieux pour attisser.
Sergio Ramos dans ça va couvrir.
Là, on a un jeune, Raul Asensio, qui est en pleine lancée. Si vraiment on lui donne pas vraiment sa chance, mais il pourra pas progresser. On le voit le cas avec Obasa. On met qui Obasa au milieu et à qui?
Non, mais faut pas confondre. Moi, je comprends parce qu'il y a une politique aussi où Florentino Pérez ne veut pas lancer trop jeune, trop tôt les jeunes pour pas qu'ils se mettent, soient des talents gâchés, pour pas qu'ils se blessent. Le Barça font ça, oui, mais le Barça le font pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'argent aussi. Ils le font par dépit. Ils le font pas parce qu'on a envie. Ça, c'est l'image qui retranscrit derrière. On fait jouer nos jeunes, etc. Non, ils les font jouer parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Que si le Real avait un Yamal sur le banc, t'inquiète pas, il le ferait jouer.
Non, mais Yamal, il a commencé comment? Yamal, on le voit aujourd'hui parce que Ousmane Dembélé est parti. Ousmane Dembélé serait encore là. Je suis pas sûr qu'on aurait vu Yamal aujourd'hui.
Ouais, je sais pas.
Quand Ousmane Dembélé était là, Yamal ne jouait pas.
Oui, après.
Il ne jouait pas, on ne le voyait pas. C'est ce que je suis en train de dire. Ousmane Dembélé serait encore en poste aujourd'hui au Barça. Ça m'étonnerait qu'on aurait vu un Lamine Yamal. Pour moi, il n'aurait pas explosé. Comme Koubarsi, parce que Aroro se blesse. C'est les mêmes types, quoi. Ça les protège pas. Parce que quand tu vois un mec comme Ansu Fati qui arrive à 16 ans et qui explose tout à 16 ans, et maintenant qu'il se blesse, regarde comment il finit.
Après,
Victor Roquet, tu
Asensio,
le récupères
c'est pareil.
Au bout de 6 mois, regarde où est-ce qu'il finit.
Asensio au Real, c'est pareil, il a complètement explosé, et puis après, il a... c'est aussi l'histoire du football. Il y a des mecs qui confirment pas.
C'est comme ça.
Oui, mais Asensio a toujours été un super sub. Il rentrait toujours en tant que super sub. Il faisait les diffs. Après, tu le mettais en concurrence avec James Rodriguez. Mais à chaque fois, il pouvait. En plus, Asensio, il a la qualité de pouvoir s'adapter partout en attaque. Du coup, dès qu'il y avait un blessé, tu sais que tu pouvais le mettre. Mais il devait faire ses preuves. C'est le Real Madrid. Tu es obligé d'avoir des joueurs de qualité sur le banc.
Mais pour moi, pour en revenir à hier, quand tu prends les 4 défenseurs du Barça individuellement et les 4 du Real, il n'y a pas un monde de qualité entre les deux. Ouais. C'est juste que les défenseurs du Barça, ils défendent avec 8 mecs devant. Qui font les efforts, donc ils récupèrent les miettes en fait. Mais sinon, pour moi, Inigo Martinez, c'est pas non plus le défenseur du siècle. Koundé, j'adore, mais on a vu les limites aussi de temps en temps.
Balde,
c'est pas le défenseur.
Balde,
défensivement, il a fait un bon match.
Non, il a fait un très bon match, Balde, c'est pas la question.
Voilà, Koubarsi, c'est 17 ans. Je pense que t'échanges les 4 de derrière et tu mets les 4 du Barça en défense du Real, dans le système du Real, ils prennent l'eau pareil. Ouais. Parce qu'ils vont prendre les mêmes vagues et ils vont être en difficulté tout le match. Ils sont hauts, ils sont à 50 mètres de leur but, ils récupèrent les miettes, ils font que des relances, des ballons. Ils sont pas le cul dans leur surface à voir les mecs arriver à 3000 à l'heure.
Il y a aussi, bien évidemment, Kylian Mbappé, qu'on disait qu'il n'allait jamais retrouver ses couleurs un peu. On était plus sur ça. Et là, on voit franchement un Kylian Mbappé qui retrouve ses jambes, son physique, son atout, son adroit devant le but. Modibo, que dire de ça?
Franchement, c'était mal parti pour lui au début de saison. Mais comme tu as dit, avec les derniers matchs qu'on a vus, là, franchement, on a beaucoup d'espoir pour lui. Je crois que c'est depuis son interview qui regagne de la confiance. Tant mieux pour lui en vrai et tant mieux pour nous aussi parce que on lui supporte, on a envie qu'il réussisse et le voir comme ça, ça fait plaisir.
C'est bien aussi pour l'équipe de France.
Ouais.
Bah oui.
Très très bien. Quand on voit un Kylian Mbappé comme pointe, on se dit même en équipe de France, ça peut être c'est un bon point positif.
Ouais, très bon point. Il a manqué les 2 derniers rassemblements. On espère qu'il ne va pas manquer celui-là pour voir ce qu'il a apporté. Et voilà, franchement, très content de sa reprise de forme.
Merci. Et toi, Chekenza?
Ouais, pour Kylian, on savait tous qu'il allait réussir. Mais on attendait juste vraiment le déclic.
Ah, pas tous, hein. Attention, non,
moi particulièrement, j'ai jamais douté de ses qualités. Je sais que c'est un gamin déjà qui a une force de mental qui est énorme. Mais vu que quand tu arrives d'investir comme le Real de Madrid, on avait en parlé en plus l'année dernière avec Malik, sur ce plateau, on l'avait dit que Mbappé, une fois Mbappé annoncé au Real de Madrid, si la chose se passe mal, ça sera le premier responsable. C'est ce qui est un peu joué un peu sur son mental. Parce qu'au début de saison, il y a eu des périodes tumultueuses. Mais c'est lui qui a porté le chapeau. Qu'on le veuille ou pas, quand tu as investi et qu'il a tout gagné sans toi, et quand tu arrives que la chose se passe mal, tu seras le premier responsable, le premier avisé. Voilà. Et donc, à un moment donné, que lui, déjà, quelqu'un qui a une force de mental, et avec les choses qui sont passées, tu loupes des pénaltys et tout ça, ben, le premier classico, tu es en dessous de la moyenne, tu t'es tapé en jeu dans le match face à tes gamins de la Masia, c'est normal que tu te fasses décrier, c'est normal que tu seras critiqué un peu partout. Mais après, vu sa force de mental, il remet les choses dans le bon sens. Il y a aussi un travail aussi qui a été fait en interne aussi, avec Zidane aussi, qui l'a beaucoup aidé aussi, qui a été un peu son conseiller et tout ça.
Parce qu'en ça, c'est ce qu'il s'est dit, hein, mais lui, il l'a démenti. Il l'a démenti.
Ah, s'il l'a démenti,
c'est faux.
Voilà. C'est ce qui a été dit sur les réseaux, apparemment.
Sur les réseaux, mais lui, il l'a démenti en interview.
D'accord, mais il y a aussi plein de choses aussi qui sont là. Parce qu'on a vu que le gamin, il a une force de frappe et que tôt ou tard, il peut prouver que vraiment que c'est un pion essentiel. Et là, ils ont misé gros sur lui. Il est en train de taire les critiques.
Merci, Chekenza. Amadou?
On est les premiers à le critiquer parce que, bon, comme les gens le trouvent arrogant, mais même si le football, c'est pas que les statistiques, le mec en Liga, bon, il est 3e meilleur buteur, 10 buts. Moi, pour moi, dans tous les cas, il va marquer sa vingtaine de buts dans la saison. Enfin, allez, même vingtaine de buts en Liga. C'est-à-dire que dans la saison plus. Après, le truc, c'est que c'est sûr que. Après, par rapport au collectif du Real, est-ce que ça va réussir à bien s'encastrer, comment on va dire ? Parce que lui sûrement, il va faire ses stats. Pour moi, je doute pas sur lui. Après, c'est sûr, c'est qu'il faut qu'il se confonde bien dans l'effectif, quoi. C'est peut-être ça qui sera peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, pour moi, il n'a pas perdu son niveau. Il marquera sa vingtaine de buts dans la saison.
Merci, merci Amadou. Maxence, très rapidement, toi, pour toi, une vingtaine de buts, ça suffit pour un joueur comme Kylian Mbappé? Parce que là, il disait une vingtaine de buts. Et, non, qu'il...
Voilà. Pas minimum.
Pour moi, c'est même pas individuellement qu'on doit le juger. Parce que certes, là, il est quand même mieux que ce qu'on a vu en début de saison. Après, il ne faut pas réécrire l'histoire non plus. Même s'il a mis ses buts, on sait dans quel contexte il les a mis. C'est-à-dire contre les équipes entre 11 et 20 en Liga, sur des situations où il y a quelques buts. Franchement, il y en a beaucoup autour de la table qui les mettraient aussi. Voilà, mais là ça va beaucoup mieux. Non, là ça va beaucoup mieux. Le but d'hier, là on retrouve un petit peu, même si c'est pas encore le top Mbappé qu'on retrouve, on retrouve un peu les jambes qu'il avait, etc.
Ouais, c'est ça.
Donc ça oui. Après, ses buts, il les mettra. Les 20 buts, tu le mets dans n'importe quelle équipe de n'importe quel championnat, il émet ses 20 buts dans l'année, Mbappé. Mais la question c'est, est-ce que ce sera bénéfique pour le Real? Et ça, je sais pas, parce qu'il s'est mis dans une position où il arrive dans une équipe qui est championne d'Europe, championne d'Espagne. Il peut pas faire mieux. Soit il fait pareil,
ouais, c'est ça, en fait.
Soit il fait moins bien. Et je pense qu'il fera moins bien. Mais c'est pas forcément de son fait. Mais c'est juste que l'équipe, pour moi, il est moins bon que celui de l'an dernier. Donc l'équipe est moins compétitive, à mon sens. Pas de sa faute, forcément. Mais l'équipe est moins compétitive que l'an dernier. Et pour moi, malheureusement, même si ça va sûrement être un crève-cœur, faudrait choisir entre Mbappé et Vinicius. Tu peux pas faire ton projet avec les deux. Pour moi, c'est deux mecs que tu mets en haut à gauche qui défendent pas et qui doivent être les stars d'un projet. Et l'équipe de Vinicius ou l'équipe de Mbappé, tu peux pas avoir les deux dans la même équipe, ça peut pas fonctionner pour moi. Et tu peux pas atteindre tes grands objectifs, notamment en Ligue des Champions, de ce côté-là. Toutes les équipes ont un mec référent devant. Et à mon sens, Vinicius-Mbappé, c'est pas complémentaire. Je vois pas de complicité plus que ça. C'est les mêmes profils, les mêmes courses. Je pense qu'il réussira une bonne saison statistique individuelle, mais collectivement, ça rendra pas justice au Real.
Merci Maxence. Bien évidemment, on va se faire une petite virgule avant de revenir sur le sujet phare aussi, choc de cette semaine, avec les propos de Didier Deschamps qui annonce son départ de l'équipe de France en 2026. C'est acté, c'est bon, c'est dit. Maintenant, qui pour la suite de Didier Deschamps et est-ce qu'on ne va pas le regretter? On va en reparler tout de suite, on arrive. Didier Deschamps qui a annoncé son départ à la tête de l'équipe de France. Quelles sont vos impressions, messieurs? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Je t'ai vu serrer du poing, Maxence. Modibo, tu peux nous dire toi qu'est-ce que t'en penses et quelle serait la suite selon toi de cette équipe de France?
Bah, Didier Deschamps, je pense qu'il est arrivé à un cours de cycle. Après, c'est comme ça, c'est naturel. On est obligé de constater ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Les deux étoiles qu'on a sur le maillot, c'est il en est. Donc, franchement, je trouve que c'était des bons mandats. Et après, pour la suite, il y a un favori, c'est Zidane. Et Zidane, c'est un très bon choix, je pense, pour l'équipe de France. Parce qu'on l'a vu que lui-même attend la proposition de l'équipe de France. Du coup, ouais, Zidane, ce sera un bon remplaçant.
Ok, merci Modibo. Amadou, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces déclarations de Didier Deschamps? Enfin, pour toi, c'est quoi? C'est un soulagement? C'est un regret?
En fait, soulagement, je ne veux pas dire que je suis un grand supporter de l'équipe de France, bon, on les suit quand même. Après, je trouve que les gens quand même ont été quand même un peu méchants avec lui par rapport à... Enfin, directement dire « Ouais, c'est bon, on a fini avec lui, on veut Zidane ». Il faut quand même respecter tout ce qu'il a fait en équipe de France, même si le jeu, malheureusement, on n'est pas toujours adepte. Après, comme on dit dans les compétitions, en équipe nationale, ce qui compte, c'est les trophées. Il a gagné la Coupe du Monde, et il a fait une finale. Bon, l'Euro, il a fait la finale, mais il l'a pas gagné. Bon, après, on va dire peut-être qu'il part au bon moment. Bon, il y en a plein qui auraient voulu qu'il parte avant. Après 2026, après la Coupe du Monde, ça veut dire que quel que soit le résultat d'après la Coupe du Monde, si admettons ils vont loin en Coupe du Monde, voilà, il sera grandi. Bon, après, s'il part, bon, on dirait qu'on va recommencer autre chose. Peut-être pour faire place à Zinedine Zidane, hein, qui sait. Hein. Je pense que Philippe Diallo, je crois qu'il vient d'être fraîchement élu à la fédération. Oui. Ouais. Dans son mandat, s'il arrive à faire venir Zinedine Zidane, ça sera bien pour lui. Je pense qu'il va essayer de tout faire quand même pour le prendre. Bon, tout le monde aussi attendrait aussi Zidane, parce qu'on sait que Zidane, il sait bien parler aux, voilà, aux grands joueurs. Peut-être qu'avec avec Kylian Mbappé, ça va le faire. Et les autres joueurs de l'équipe de France, donc on verra bien ce que ça va donner, quoi. C'est l'avenir nous le dira.
Merci. Ouais. Zinedine Zidane, bien évidemment, son nom ressort énormément juste après Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, qu'on a vu, hein, qui n'encense pas de remplaçant pour l'instant, et qui n'a jamais vraiment, c'est ce que son ancien coéquipier disait sur le plateau, qui n'a jamais su faire une passe décisive à Zinedine Zidane, dire que c'était peut-être le remplaçant idéal pour cette équipe de France. Et est-ce que, parce que quelle serait la suite aussi de Didier Deschamps? Est-ce que Didier Deschamps pourrait intégrer le staff de l'équipe de France? On ne sait pas, hein, dans les instances, d'un assistant ou d'un rôle premier à côté de Philippe Diallo, qui pourrait aussi, il pourrait très bien s'installer aussi auprès de ça. Et est-ce que lui, il accepterait que Zinedine Zidane prenne la tête de l'équipe de France? Tout ça, ça en fait partie. C'est des petites rumeurs qu'on peut en discuter chez Kenza.
Ouais, bon, concernant ce cas, vraiment, ils ont pas de très bonne relation. À vue d'œil, c'est pas des potes, parce qu'on savait qu'en équipe de France, le pote à Zidane, ça a toujours été Dugarry, ouais. Voilà, pour Deschamps, voilà, ouais. Dugarry, Lizarazu, ça a toujours été la bande de potes depuis Bordeaux et tout ça. Pour voilà, Deschamps a ses potes à lui, c'est fidèle à lui, comme Laurent Blanc, tu vois, peut-être comme Ulysse Agnol, comme Lilian Thuram et tout ça, comme Fabien Barthez, qui sont ses potes à lui. Mais ça n'empêchera rien, parce que qu'on le veuille ou pas, Zidane, c'est la plus grande étoile de la génération 98. Qu'on le veuille ou pas, c'est la plus grande étoile de l'équipe de France, voilà, hormis un peu Platini, voilà, qui peut-être que le survole un peu en termes de médiatisation. Mais Zidane en équipe de France, c'est du renouveau, parce que Deschamps, il a écrit l'une des plus belles histoires de l'équipe de France. 7-98, il n'est pas artisan majeur, mais quand même, c'est le capitaine. Voilà, en 2018, c'est lui l'artisan majeur, parce que c'est lui, on n'y croyait pas. Cette équipe était décriée, il y avait peu de jeux et tout ça. Et avec son mental et avec ses méthodes à lui, il arrive à ramener la culture de la gagne, parce qu'on était parti sur des échecs vraiment lamentables. Il y a ça aussi, mais je crois que Zidane, c'est du renouveau. C'est ce que tous les Français attendent. C'est du beau jeu, c'est de la qualité du jeu, c'est des schémas tactiques bien planifiés. Et on a senti qu'avec Zidane, on est réparti pour dominer le football mondial sur 10 années encore ou 15 ans. Avec Zidane, c'est sûr que vraiment, si tu pars en Coupe du Monde, mais c'est limite demi-finale. Parce que Zidane, on sait que c'est quelqu'un qui est un artisan du beau jeu, c'est quelqu'un qui sait gérer le collectif. Avec Zidane, c'est quelqu'un qui a la rigueur, quelqu'un qui a géré les plus grands, un vestiaire rempli de Cristiano, Karim Benzema, des joueurs remplis de go. Il a géré le Caramés Rodriguez qui voulait un peu lui monter la tête, il l'a ramené sur le banc. En fait, on sait qu'avec Zidane, tu ne peux pas avoir un Zidane en face de toi et mal te comporter. Oui, parce qu'en termes de talent, il est meilleur que toi. Bah oui, en termes de management, bah, tu pourras rien lui apprendre. On n'apprend rien à Zidane quand même. Quelqu'un qui a tout gagné, tu peux rien lui apprendre. Donc Zidane, vraiment, ça serait la figure la plus emblématique pour élever vraiment le football français. En termes de stats et en termes de talent, en termes de tout.
Merci, Cheikh Kenza. Maxence ?
Ouais, pour moi, Zidane en équipe de France, c'est le sens de l'histoire. Platini a été coach de l'équipe de France, voilà, quand ça a été son moment. Maradona a été coach de l'Argentine. Zidane sera coach de l'équipe de France. C'est comme ça. Après, pour moi, sur le passage de Deschamps, c'est clair que Deschamps, il fera pas de passe-dé à Zidane. Ils ont pas de très bonnes relations, comme tu l'as dit. Donc, je vois pas pourquoi, s'il peut savonner la planche, il le fera. Et Deschamps, il a toujours mal vécu le fait d'être dans l'ombre de Zidane. Mmh. 98, c'est pas sa Coupe du Monde, c'est celle de Zidane. Donc, si Zidane peut échouer après lui, ça lui ira très bien. En se disant, voilà, sans moi, c'est plus dur. Donc voilà. Après, Deschamps, pour moi, je couperais son mandat en deux. Je dirais que les 6 premières années, merci pour tout, bravo, parce que là où il a récupéré l'équipe de France, c'était très 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 bas quand même.
Très compliqué.
En 2012, il faille pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Au final, il y va, il fait un quart de finale, il perd contre le futur vainqueur 1-0, donc c'est très très digne. 2016, pareil, finale à domicile avec toute la pression que ça comporte. La finale, bon, on la connaît, mais bon. Quand même, belle performance.
C'est une bonne performance quand même.
2018, on n'en reparle pas, très bien. Et à mon avis, là, le virage a lieu. C'est-à-dire que là, t'es champion du monde, t'as atteint ton objectif. Sur les 3 compétitions, voilà, t'as été champion du monde, du coup, une fois sur 3. Très bien. Maintenant, il faut passer à autre chose. Tu peux pas refaire la même recette tout le temps et regagner en sélection nationale, ça se voit pas, ça. faut que ça passe par le jeu. Et du coup, on a vu l'échec de l'Euro 2021. Gros échec, parce que pour moi, c'est là où tu as la meilleure équipe de France. Ouais. T'as Griezmann qui a son top, Mbappé qui a son top, Benzema qui revient à son top. Et Deschamps, il n'a jamais réussi à incorporer plus que ça Benzema. En 2022, il l'enlève de la liste, sur une histoire bizarre où il s'en va au milieu de la nuit. Au final, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner avec lui. Et 2024, moi je suis désolé, l'Euro... Malgré la demi-finale, pour moi, c'est un cache-misère de fou. Ouais, ouais. C'est qu'il n'y a aucun match qui est valable dans ce mandat, dans cette compète. Mmh. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner 2026. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, il faut que l'histoire se termine. On n'en peut plus. On voit que même, et ce n'est pas que moi, on voit que les audiences de l'équipe de France n'ont jamais été aussi basses. Les gens sont totalement désintéressés. Ça ne plaît plus à personne. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais tout le monde dit qu'on a la plus belle génération du monde, qu'on a un vivier de fou, etc. Bah Deschamps, si vraiment on a un vieux de fou, Deschamps il en fait pas assez et on voit pas assez de ce qu'on a à voir. Donc on va passer sur Zidane. Je pense pas que tactiquement ça changera grand chose, mais déjà sur le personnage ça va changer un petit peu, ouais, ça va mettre un peu de renouveau et puis il aura un crédit pendant 2-3 ans parce que c'est Zidane, donc on le critique pas comme ça. Mmh. Et il aura le temps de voir au moins une ou deux compètes, de voir ce qu'on peut faire et puis d'avoir du sang neuf. Et je pense que ça poussera aussi les jeunes Français à se dépasser, parce que être coaché par Zizou, ça va être la génération qui a connu Zidane joueur en étant tout petit, ça va les surmotiver.
Merci à toi Maxence. Je pense que tout a été dit autour de la table sur le cas Zinedine Zidane et sur l'équipe de France. En tout cas, nous, logiquement, on souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette équipe de France qu'on supporte. On va passer au mercato. Le mercato Colomoigny à la Juventus, ça commence à se concrétiser. Arroro qui se dirige à la Juventus aussi, mais Arroro avec la blessure de Inigo Martinez, les plans sont remis en jeu. En tout cas, les discussions sont stoppées nettement avec cette blessure. Cacré qui vient de signer à Com, qui l'aurait pensé, parce que Cacré, il y a 3-4 ans, on le voyait tous en pépite.
On le voyait dans un gros club. Ouais.
Dans un gros club aussi. Cacré. Est-ce qu'ils n'ont pas loupé le coche? Est-ce que cette génération de Lyon n'ont pas loupé le coche, Cacré, Aouar, est-ce qu'ils n'ont pas loupé le coche en vrai? Et en vue des performances qu'ils faisaient, Lens qui font le coup de la décennie en vendant Kuchanov à 50 millions bonus compris à Manchester City, en sachant qu'ils l'ont touché à peine à 100 000 euros. 100 000 euros, 50 millions. Vous voyez, voilà.
C'est plus de 1000% de match de bénéfice. Ouais.
Voilà, ça c'est.
Le scout qui a fait ça, il faut le féliciter, c'est Thiel de Lens, Grégory Thiel.
J'espère qu'il prendrait une petite commission quand même dessus. On doit signer un petit chèque quand même, j'espère en tout cas pour lui. Et Kvaratskhelia qui va signer au Paris Saint-Germain, vraisemblablement c'est pratiquement fait et ça devrait se boucler d'ici la fin de saison. C'est une bonne opération aussi pour le club parisien, parce que c'est pas encore fait, mais je pense que c'est en très très bonne voie, qu'il ne joue plus d'ailleurs avec Naples, et je pense que c'est en très bonne voie parce que c'est ce qu'il fallait, notamment à gauche, parce que Barcola était dans le dur, et comme on disait, Barcola est un super sub, je pense. Et là, avec Kvaratskhelia qui pourrait être titulaire et qui sait marquer des buts et qui sait faire la différence sur son côté, ça peut être une bonne chose. Kvaratskhelia qui est un 2001.
Il va avoir
24 ans cette année. Je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Modibo, de tous ces trucs? Est-ce que tu penses que la Juventus, c'est un bon tremplin pour Colomoigny aussi? Excusez-moi, mais ça sera très rapide. Il reste à peine 5 minutes. Essayez d'être court et concis, s'il vous plaît.
Colomoigny à la Juve, oui et non, parce que on voit qu'il y a Vlahovic.
Après, Vlahovic, mais Vlahovic aussi, est dans le dur. Ça fait un moment que Vlahovic est dans le dur. C'est pour ça que la Juve veut récupérer notre attaquant.
Faut relancer la concurrence. Après, Kvaratskhelia au PSG aussi, je pense que ça, comme tu as dit, c'est une bonne pioche. Parce que quand on voit Barcola, ses performances, on peut se poser des questions. Après, il y a Doué aussi. Du coup, ça va redistribuer les cartes. Ça va redonner de.
Moi, je pense que Kvaratskhelia, il vient pour 60 millions, 70 millions. Je pense qu'il est titulaire.
Non, il est titulaire, oui.
Mais après, sauf si Luis Enrique
veut sa place
faire,
aussi.
Doué veut sa place. Mais c'est
Barcola difficile. Aussi, il perd sa place. Ça veut dire que, tu vois, il faut qu'il.
Doué, il peut jouer partout après.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Doué, on peut le changer.
Il peut jouer en 10. Doué, il peut jouer en 10. Il peut jouer en ailier droit, en ailier gauche. Doué, c'est une polyvalence, en fait. Mais les livrements. Les noms vraiment compliqués.
Kvaratskhelia,
vraiment, lui, c'est plus un ailier, c'est plus un ailier type ailier, vraiment. Un joueur vraiment qui peut apporter le surnombre, qui est très bon vraiment dans l'espace et tout ça, qu'on peut lancer, tout ça en contre-attaque, même en transition rapide. Quand on regarde le sac de Napoli, lui, vraiment, et Osimhen, pour moi, c'était la bonne pioche que le PSG devait avoir.
Ouais.
Mais j'ai pas compris là, celui du recrutement. C'est ça un peu en fait. On a comme l'impression qu'au PSG, on fait tout pour se tirer dans le pied, ou c'est pas, on se tire dans la main souvent, on se met les bâtons dans les roues. Parce que vraiment, voilà, on a envie de voir souffrir vraiment ce peu parisien. Mais à un moment donné, soit le Qatar il part, soit les supporters se rébellent. Ça va venir tôt ou tard. Parce que oui, rien n'est fait de façon correcte dans ce club. On a comme l'impression qu'il y a que de l'argent. On n'investit pas à pète. Il faut investir dans le bon tempo. Quand on est un club, on veut gagner. On ménage sa monture, tu veux aller loin, ménage sa monture. Mais si tu ne ménages pas ta monture, ben dis-moi où tu veux aller. Tu n'iras nulle part. C'est ça, c'est le PSG ne fait que tourner en rond.
C'est ça.
Merci, Cheikh Kenza. Amadou ?
Non, moi, Colomani à la Juve, moi, ça me dérange un peu. Bon, après, chacun ses goûts. Moi, j'aurais aimé qu'il aille soit à West Ham. Parce que comme je crois Mickaël Antonio qui avait une grosse blessure, soit West Ham, soit...
West Ham qui sont sur Eli Wahi.
Ils
viennent de faire une proposition de 25 millions pour Eli Wahi.
Moi j'aurais dit West Ham ou même Monaco, mais je crois que Monaco c'est pas possible. Pour moi ça aurait été là, parce que moi je pense que dans... Franchement,
pourquoi
dans
tous les cas,
peut-être je me ou à Monaco, il y avait une histoire comme quoi, je sais pas, à Monaco, il y a une histoire de payer le salaire, je sais pas, il y en a, ça les arrange pas. Mais... En tout cas, moi, dans tous les cas, quel que soit où il va aller, peut-être pas la Juve, mais Colomani, à mon avis, il va tout péter là-bas. Et après, on va pleurer sur ce joueur. Mais sinon, par contre, en ce qui concerne Krava, je l'ai suivi sur les dernières années. Bon, je pense que c'est un joueur qui est aussi un peu dans une hype, mais après, c'est à voir sur la longue. Moi, ça fait des mois que je dis que Paris aurait dû se mettre sur Lookman. C'est Lookman qui va acheter. En plus, comme c'est un Africain, ils sont toujours moins chers. On l'aurait eu pour 30 millions. Ouais, enfin, malheureusement, c'est ouais, ça. Lookman, il a un potentiel à coûter je sais pas combien de millions. Moi, j'aurais pris Lookman. Je sais pas pourquoi ils ont voulu se focaliser sur Kravach qui est là. Bon, ils aiment bien aller en Italie. Bon, Lookman est en Italie, mais Lookman, il a fait plusieurs pays aussi. Moi, pour moi, ils auraient dû se mettre sur Lookman. Même Lookman au Chimène. Plutôt que Krava. Krava, moi, je suis pas sûr que...
C'est la bonne solution. Attends, Shekinza. Tu penses pas que c'est la bonne solution?
Je suis pas sûr que c'est... Et en plus, faut prendre un mec qui me... Faut aussi des tueurs devant. En fait, faut un ailier qui soit tueur.
Okay, même pour toi, Gonzalo Ramos, ça suffit pas. Kelia qui va servir Gonzalo Ramos
sur... Parce que peut-être qu'il fera des passes, ouais, mais...
Et il marque quelques buts, je pense que ça pourrait le faire.
Après, il manquait un joueur comme ça, peut-être un peu plus technique. Même, il fait un peu penser aussi à Pastore, même si c'est pas complètement le même profil. Mais à voir. Je le sens un peu nonchalant.
Merci, Amadou. Maxence, on va terminer avec Maxence, oui.
Moi, Colomani, pour moi, j'aime le profil du joueur, mais pour moi, la Juve, je le sens pas. Les défenses basses italiennes et tout, je pense que ça va être un bourbier pour lui. J'aurais plus vu en Angleterre, voire en Allemagne. Le retour en Allemagne pour lui remettre de la confiance dans un championnat qu'il connaît, un contexte qu'il connaît, voilà. Enfin, pour moi, ça aurait été mieux. Après, je demande à voir. Kvara au PSG, je pense que tout a été dit, donc voilà. Mais sinon, en parlant de Mercato, moi, il y a une signature que je veux mettre en avant, c'est à Lens. Ils ont récupéré un avant-centre, Kolayipou, centrafricain qui vient de Sofia en Bulgarie.
Oui, qui
16 matchs,
bourre,
14 buts. Ouais, et le mec, j'ai vu son match samedi, il a déjà marqué pour sa première en Ligue 1. Ouais. Pour moi, il va faire très très mal sur la deuxième partie de saison. Ouais. Et ça aussi, c'est une vente qu'ils pourront faire d'ici un an ou deux. Et à mon avis, ça va être très très fort.
Ouais, ouais. Ça, c'est des joueurs qu'ils arrivent à choper dans des championnats perdus.
Un peu dans le délire Kouchanov. Hein, mais
Kouchanov, lui, il vient de Biélorussie, si je ne me trompe pas.
Ouais, un truc comme ça.
Comme Krava.
Merci en tout cas. Merci en tout cas pour cette émission animée. J'espère que ça vous a plu. On vous souhaite de bonnes soirées, une très bonne soirée en tout cas, et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.